Bonjour! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bonjour les amis! Bienvenue pour ce stream d'analyse où il n'y a rien à analyser, hein. Parce que bon, voilà, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'hier. On sait pas où on va. Moi je sais pas, hein. Vous savez, vous? Moi je sais pas. Tu te proposes qui en premier ministre? Oh! Oh, vaste question. J'en sais foutre rien. L'analyse du silence. Ouais, voilà, c'est ça, on va faire de l'analyse du silence de l'Élysée. Tony Estanguet. C'est pas plutôt Thomas Joly qu'il faudrait? Moi, je dis Thomas Joly, Premier ministre. Allez, hop, ça part. C'est un stream de consultation, oui, c'est ça. Ouais, je reviens de l'Élysée, là, j'étais consulté à l'Élysée. Voilà, je suis arrivé, j'ai dit bonjour et je me suis cassé, hein. Pas la peine de... Hein. Salut Jean, je ne connais rien à Twitch, mais je me suis abonné pour 6 mois. À part ta chaîne, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Eh bah bienvenue sur Twitch. Merci pour ton abonnement, c'est très généreux. Bah tu vois, ça fonctionne bien, Twitch. Quand tu t'abonnes, ça me soutient financièrement et ça me permet de manger des pâtes. Et ça, c'est cool. En vrai, merci à toi et bienvenue. Et n'hésite pas à visiter hein, Twitch, il y a plein de trucs. Hein. Est-ce que tu es candidat à Matignon, Jean? Bah j'ai demandé, mais j'ai dit attention parce que moi je peux pas le jeudi, j'ai backseat. Et du coup ils m'ont dit ah c'est chiant, ça nous emmerde parce que nous c'est plutôt un plein temps quoi. Voilà. Donc j'ai dit non, je peux pas. Je dois garder les enfants. Ouais, non, le poste, désolé. C'est gentil de l'avoir proposé, hein, mais non. Des pâtes au pesto, évidemment, bien sûr. Poutou Premier ministre. Il a même pas réussi à être élu. Quand même difficile pour le Premier ministre. Ça va être chaud. Donc non. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a continué les consultations par téléphone, semble-t-il, en grande partie. Et apparemment, l'hypothèse Cazeneuve tient toujours. L'hypothèse Bertrand tient toujours. Et l'hypothèse Thierry Baudet tient toujours. On n'est pas plus avancé qu'hier. Castel a été élue. Ah non, non, Castel non plus n'a pas été élue, mais elle n'a même pas été candidate. Et par contre, elle est soutenue par 200 députés, ce qui est plutôt pas mal pour se positionner en hypothétique Premier ministre. C'est un bon début. Poutou, je sais pas qui le soutient à l'Assemblée, hein. Peut-être les Insoumis amicalement, mais ça suffit pas. Le RN a dit qu'il censurerait Bertrand. Oui, je crois que c'est Marine Le Pen qui a déclaré que si Xavier Bertrand était nommé Premier ministre, elle le censurerait, ce qui n'est pas étonnant. Je vous le disais hier, Xavier Bertrand, c'est l'anti-Le Pen par excellence. Ah non, pas par excellence, il y en a plein d'autres, mais c'est lui qui a battu à plate couture Marine Le Pen dans la région Hauts-de-France et qui depuis dirige la région, avec un angle anti-RN. Donc oui, non, c'est pas étonnant que le RN censure Xavier Bertrand, oui. Ça, c'est... oui. J'ai lu que Villepin cause avec Castet des infos là-dessus. Non, on n'a pas d'infos. Lucie Castet a annoncé qu'elle avait eu Dominique de Villepin au téléphone. Pas du tout à plate couture. Ah, les élections de 2015. Ah non, t'as raison, la gauche s'est retirée. La gauche s'est retirée, permettant à Xavier Bertrand d'être élu président de la région. C'est vrai. Ce sera Castet ou rien. Alors, ça risque d'être Castet et rien. Si elle se bouffe une motion de censure, ça va être vite vu. Hein. L'hypothèse Castet, elle sera repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Non, mais je me disais, parce que je repensais à l'hypothèse Castet, je me disais, non, mais pourquoi il nomme pas Castet et tout? Parce que moi, je vous disais, mon hypothèse la plus rien du tout, d'ailleurs. Voilà, l'hypothèse que j'avais, c'est Emmanuel Macron nomme Lucie Castet à Matignon, et Emmanuel Macron dit à ses députés, les députés René, ensemble, il leur dit, faites votre boulot. Faites votre fucking boulot de député. Négociez avec Lucie Castet. Voyez ce qu'elle propose. Et ensuite, on décidera si on s'oppose ou pas. Mais on peut lui laisser plusieurs mois d'exercice, à minimal budget. On va pas lui laisser le budget, on va le négocier le budget. Et on voit si ça tient. Mais après, je me suis dit, mais attends, parce que les députés macronistes, ils savent pas ce que c'est qu'être dans l'opposition. Ils ont jamais été dans l'opposition, les députés macronistes. Ils ont jamais fait le travail d'amendement, au sens amendement de conviction. Enfin, je veux dire, ils déposaient des amendements qui étaient plus ou moins soutenus par l'Élysée, quoi. C'était les cabinets ministériels qui leur filaient des amendements. Enfin, c'est pas, c'est ça être député de la majorité. Et je parle de toute la majorité, hein, majorité de gauche, pareil. Hein, voilà, quand t'es dans la majorité, bah, t'as les ministères qui font le travail, quoi. Du coup, bon. Je sais pas si Emmanuel Macron peut compter sur ses députés. Parce que c'est... Comment dire ? C'est un peu détanche. Comme diraient les mauvaises langues. Ce qui n'est pas mon cas. Mais... Voilà. Non, puis en plus, c'est même pas vrai ce que je dis, parce qu'il y en a quand même dans le tas qui ont été ministres. Je veux dire, il y a un Gabriel Attal. Un Gabriel Attal, il s'est négocié. Il y a un... Comment il s'appelle ? Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a été député pendant des années. Il a été ministre, pardon, pendant des années. C'est loin d'être la moitié d'un débile. Il saura casser les couilles à Castet. Déposer les amendements qui vont bien. Il y en a un qui sait jouer à LOL. Alors, il y a Denis Masseglia qui sait jouer à LOL. Et il joue mieux à LOL que la France Insoumise, je vous rappelle. Hein, parce qu'il les a battus. Donc, ça doit être terrible de réfléchir quand tu es député avec une équipe derrière. Je ne les envie pas. Ben non, c'est pas terrible. Enfin, c'est même une bonne partie du boulot, quoi. Il veut vraiment pas qu'on touche à sa réforme. Ah non, c'est effectivement la difficulté pour Lucie Castet si d'aventure elle était nommée à Matignon, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est qu'elle aura besoin de pouvoir compter sur le soutien à minima implicite des députés macronistes. Or, les députés macronistes, leur soutien, ils vont le monnayer. Avec des conditions. Et l'une des conditions, ça sera par exemple de ne pas toucher à ce qui a été fait. Bon courage pour gouverner, sans toucher à ce qui a été fait depuis 7 ans. Ou alors à la marge. À quoi servent exactement les cabinets de conseil en politique ? J'ai compris qu'ils les utilisaient beaucoup. Alors, faut pas confondre les cabinets ministériels et les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil sont des entreprises privées qui font du conseil aux dirigeants, dirigeants d'entreprise, dirigeants d'administration, dirigeants de collectivités locales, et qui répondent à des marchés publics où on leur demande une prestation de réflexion sur un point donné en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça. Et les mecs, ils turbinent, ils font réfléchir des gens, ils font des entretiens, etc. Et puis, ils rendent un rapport en disant ben voilà ce qu'il faudrait faire. Ça c'est purement consultatif évidemment, c'est le principe du conseil, hein. Le conseil, il n'y a pas que des cabinets de conseil. Alors on parle beaucoup des grands cabinets comme McKinsey par exemple, qui est un grand cabinet de conseil international qui fait des recommandations, enfin voilà, qui bosse pour des clients qui peuvent être des états, des gouvernements, peuvent être des multinationales, des ONG, etc., j'en sais rien, ils bossent pour plein de gens. Mais il y a aussi des gens qui font du conseil solo, hein. Il y a des travailleurs indépendants qui font du conseil, moi j'en connais plein, non pas plein. Mais j'en connais, hein. Voilà, ils ont bossé pendant 30 ans dans telle administration, bon, bah, ils sont un peu spécialisés du domaine, donc ils vendent leurs compétences et ils répondent à des marchés publics en proposant des prestations de conseil. Ça, c'est les cabinets de conseil, et ensuite, il y a les cabinets ministériels. Les cabinets ministériels, ce sont des équipes resserrées de conseillers qui sont les plus proches collaborateurs du ministre, et qui bossent pour lui, hein, qui travaillent pour lui, et qui mènent tout un travail d'articulation entre le politique et l'administratif. C'est eux qui sont la courroie de transmission, et qui, dans chacun de leurs domaines respectifs, puisque dans un cabinet, il y a plusieurs conseillers, et chaque conseiller est responsable d'une partie du boulot, et dans sa partie du boulot, le conseiller est chargé de faire le lien avec la haute administration, d'articuler le travail, de donner le rythme, d'animer les réunions, etc., et de faire le travail de conseil auprès de son ministre. Pour accompagner le ministre dans son mandat de ministre, enfin dans son travail de ministre plutôt, dans sa fonction de ministre. Ils sont désignés comment, les conseillers ministériels ? Est-ce que c'est les ministres qui les nomment ? Alors oui, ce sont les ministres qui nomment les conseillers ministériels, puisque ce sont leurs équipes de collaborateurs les plus proches. C'est comme les assistants parlementaires. C'est des assistants ministériels, si vous préférez. C'est pareil. Donc ils les recrutent. sur entretien d'embauche, etc. C'est rare qu'il y ait des fiches de poste qui circulent sur des sites de recherche d'emploi. Hein. C'est des boulots qui sont réservés à une toute petite minorité de gens qui se recommandent entre eux les uns les autres. C'est, tu passes parfois d'un cabinet à l'autre, etc. Il y a une exception à ça, et on en reparlera d'ailleurs pour Matignon, parce que ça a été le cas avec Thierry Baudet quand on en parlait hier. Il peut arriver que le directeur de cabinet, qui est donc le conseiller le plus proche du ministre, la personne la plus. C'est un peu la main du roi dans Game of Thrones, vous voyez? C'est un peu ça. Le directeur de cabinet peut être nommé par l'Élysée ou par Matignon, qui peut imposer plus ou moins un directeur de cabinet à un ministre, histoire de garder la main sur ce ministre et de pas et qu'il fasse pas n'importe quoi. El famoso DIRCAB, exactement, le DIRCAB, qui est la personne la plus importante du ministère après le ministre, qui est quasiment son alter ego en fait. Et donc voilà, donc il peut arriver que le DIRCAB soit nommé par l'Élysée ou par Matignon, parce que Matignon veut garder la main. Donc tout ça, ce sont des tractations, des négociations et des rapports de force. Et voilà. Quels sont les pouvoirs du directeur de cabinet? C'est un pouvoir d'organisation, c'est un pouvoir de délégation. C'est une personne qui a la confiance du ministre, et c'est une personne qui, en l'absence du ministre, peut être amenée à prendre des décisions, en consultant le ministre évidemment, mais en qui le ministre a entièrement confiance. Quand le ministre est en déplacement dans le Gers pour rencontrer des agriculteurs, ça lui prend une journée, le déplacement, et ben pendant la journée, heureusement qu'il y a le DIRCAP qui bosse. Alors, ça veut pas dire que le ministre bosse pas. Hein. Le ministre, dans l'avion, dans le train, dans la voiture, il est au téléphone, etc. Il lit des fiches, il lit des notes. Donc, il bosse, évidemment. Mais celui qui tient la baraque à Paris, au ministère, c'est le directeur de cabinet, qui, lui, dirige l'ensemble de l'activité du cabinet, donc de l'ensemble des conseillers. Et chaque semaine, le mercredi matin, tu as une réunion du cabinet ministériel, animée par le directeur de cabinet. Le ministre est jamais là, parce qu'il est toujours en déplacement. Et le directeur de cabinet, il anime la réunion, il fait le point sur les dossiers avec les différents conseillers. Vous en êtes où? Est-ce qu'on a avancé sur tel truc? Ok, est-ce qu'on peut le faire passer dans la prochaine loi? Non, ça va être compliqué. Ok, est-ce qu'on peut imaginer une passation par décret? Etc., etc., etc. Comment le ministre peut avoir pleinement confiance s'il est nommé par quelqu'un d'autre? Ben justement, c'est tout l'art de la politique, ça. De garder la main. C'est quoi le taf en vrai? Étudier des dossiers, des appels d'offres, etc., etc. J'ai l'impression que ça occupe pas 40 heures par semaine non plus tout ça. Alors, j'ai travaillé en cabinet ministériel. On est plus proche de 45-50 heures par semaine de travail. Mais c'est un travail politique en fait. C'est difficile à définir. C'est des gens qui passent leur journée au téléphone, en réunion, en rendez-vous. Et qui font vivre les dossiers, tu vois. Le ministre a une loi, un projet de loi de réforme de son ministère, enfin en tout cas du champ d'application de son ministère qui arrive dans un an. Et bah t'as un an de travail de préparation de la putain de loi. Et donc tu vas passer un temps fou au téléphone avec les partenaires sociaux, avec l'administration, avec les directeurs d'administration centrale, avec des recteurs, avec des trucs. Enfin un recteur c'est pour l'éducation nationale, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec des préfets et tout. Tu vas avoir au téléphone des élus locaux, tu vas avoir au téléphone des maires, tu vas avoir au téléphone des personnalités diverses et variées que tu as besoin de consulter, de checker, vérifier. Tu dois lancer, animer un cercle de réflexion, un cercle de concertation, par exemple, parce que maintenant, il y a de plus en plus de politiques qui sont concertées. Et ça, une concertation, faut la faire vivre. C'est long. C'est long, c'est lent, c'est. Non, c'est. Et évidemment, là, je vous parle que d'un dossier de long terme, parce que j'ai été gentil, hein, je vous ai dit que la loi était dans un an. En vrai, elle est plutôt dans 2 mois. Mais pendant ce temps-là, tu dois gérer les urgences. Parce qu'il y a tout le temps des urgences. Le ministre de l'Éducation nationale, il a des urgences. Il y a un collège qui a brûlé dans la nuit, bah, il doit s'y rendre en urgence. Et du coup, il a besoin de son conseiller, il lui écrive une note pour lui dire ce qui s'est passé, à quelle heure, etc. Quels sont les responsables sur place, machin et tout. Est-ce que c'est une bonne situation, conseiller ministériel? C'est très bien payé. C'est très difficile en termes de charge de travail, etc. Mais ça, c'est le genre de boulot pour lequel tu sais pourquoi tu signes. Hein. Et en général, t'en fais pas toute ta vie. Par définition, puisque tu es lié à ton ministre, il suffit que ton ministre dégage pour que toi, a priori, ton poste soit remis en cause. Sauf si le ministre suivant accepte de te garder, mais c'est pas sûr, il a peut-être envie de venir avec son équipe, le ministre suivant. Tu gagnes de l'argent, mais tu perds des HP. Ouais. Ouais. À quelle heure est-ce que Macron donnera le nom du Premier ministre? Ah bah c'est une excellente question, je te remercie de me la poser, parce que j'en sais foutre rien. Il semblerait que ce soit pas pour aujourd'hui. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui vient de tomber sur Le Monde. Olivier Faure et Boris Vallaud vont s'entretenir avec Emmanuel Macron. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, et le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud, vont s'entretenir cet après-midi avec Emmanuel Macron dans le cadre des consultations menées par le chef de l'État pour le choix d'un Premier ministre. Les deux hommes ont été invités séparément, mais souhaitent répondre ensemble au président de la République, selon plusieurs sources internes au PS. Intéressant. Ça semble préciser la piste Bernard Cazeneuve. Avec l'accord du NFP? Non, ils n'ont pas besoin de l'accord du NFP pour se rendre chez le président de la République. Cazeneuve avec négociation sur Patouche réforme. Bah oui. Donc on dira ce qu'ils vont le dire, mais en tout cas, Olivier Faure et Boris Vallaud, eux, ils sont contre la nomination de quelqu'un d'autre que Lucie Castet. À mon avis, ils ont testé l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Et je sais pas ce qu'Emmanuel Macron va avoir dans sa besace à proposer. S'il dit on nomme Cazeneuve et il touche pas, et il touche à rien et on continue la même politique qu'avant, bah Boris Vallaud et Olivier Faure, ils vont répondre bah non. C'est-à-dire que non. Il faut qu'ils insistent pour que ce soit Lucie Castet. Bah je pense, oui. Je pense. La question c'est Bernard Cazeneuve, combien de députés il a? Chez les socialistes, j'entends. Et encore une fois, c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, quand bien même Bernard Cazeneuve réussit à débaucher, disons, une vingtaine, une trentaine, je sais pas, ce serait quand même la moitié du groupe, ça me paraît beaucoup, de socialistes, c'est toujours pas une majorité pour voter des textes, ça. Donc bon. Tu penses que Macron pourrait changer d'avis sur Castet? Ça serait probable. Je pense que Macron pourrait se retrouver à un moment donné contraint et forcé de nommer Castet. Maillard-Rossignol&Co. Maillard-Rossignol, effectivement, fait partie des soutiens de Bernard Cazeneuve. Mais Maillard-Rossignol, aux dernières nouvelles, il est toujours maire de Rouen. Ouais non, c'est ça. Non non, il a pas été, il est pas député, il est pas député socialiste, il est maire de Rouen. Très jolie ville Rouen, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est pas parce que t'as le maire de Rouen avec toi que tu peux gouverner le pays quoi. Il est suppléant de la députée de Rouen. D'accord. Ils ont mis le maire en suppléant. Ça veut dire que si elle est nommée ministre dans un gouvernement Cazeneuve, Nicolas Maillard-Rossignol rentre à l'Assemblée. Ah bah il va être accueilli par ses copains du NFP. Tu peux nous faire un petit résumé du personnage politique de Bernard Cazeneuve, please? Bernard Cazeneuve est un responsable socialiste qui a été. Enfin, il a gagné des galons d'homme d'État respecté par beaucoup de gens parce qu'il était ministre de l'Intérieur au moment des attentats terroristes de 2015. Les attentats du Bataclan, les attentats de Charlie Hebdo, etc. Il était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Et donc voilà, donc il a gagné des armes de respectabilité à ce moment-là. Bernard Cazeneuve est pas très très aimé par la gauche, notamment par les insoumis, parce qu'il était le ministre de l'Intérieur au moment de la mort de Rémi Fraisse, qui était un militant contre la construction d'un barrage à Sivens et qui a reçu une grenade des CRS dans le dos et il en est décédé. Il y a donc eu un mort sur le barrage de Sivens. C'était Rémi, il s'appelait Rémi Fraisse et c'était Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Donc ça lui a, il n'a pas eu que des copains, notamment chez les écolos. L'autre truc aussi qui est reproché par la gauche à Bernard Cazeneuve, c'est le vote de la loi renseignement. C'est le vote de la loi renseignement qui a été une loi jugée liberticide par beaucoup de responsables à gauche. C'était une des lois qui visait à lutter contre le terrorisme après les attentats, à adapter la France à la lutte contre le terrorisme. Et donc là aussi, il s'est pas fait que des copains. Et ensuite, Bernard Cazeneuve a été le dernier Premier ministre de François Hollande. Bernard Cazeneuve, on a tendance à l'oublier parce que ça n'a pas duré très longtemps et que c'était à la fin du quinquennat, mais il a été le dernier Premier ministre de Bernard Cazeneuve, de François Hollande. Bernard Cazeneuve, il n'a pas eu l'occasion de mener des grandes réformes, hein, elles étaient déjà passées depuis longtemps, mais il a quand même eu le poste de Premier ministre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par la suite, il est resté au Parti socialiste de 2017 à 2022 pendant le premier quinquennat de France de Emmanuel Macron, pardon. Il était toujours membre du Parti socialiste et il a décidé de quitter le Parti socialiste en 2022 lorsque le Parti socialiste a participé à la construction de la NUPES, qui était un accord avec les Insoumis. Et Bernard Cazeneuve, lui, il est radicalement opposé à tout accord avec la France insoumise et donc il a quitté le Parti socialiste à ce moment-là. C'est pas aussi Cazeneuve la loi qui facilite l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre. Si tu as raison, c'est aussi Bernard Cazeneuve qui a modifié l'emploi des armes à feu par les officiers de police dans le cadre des refus d'obtempérer. Un traître accompli. Mais c'est pas de la traîtrise de quitter le Parti socialiste. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, il l'a bien fait lui aussi. T'as parfaitement le droit de quitter le Parti Socialiste pour rester aligné avec tes valeurs, avec tes opinions et tes valeurs. C'est le cas de Bernard Cazeneuve. Il considère que le Parti Socialiste d'Olivier Faure, c'est pas le bon. Est-ce que c'est un homme de gauche? J'en sais rien et je m'en branle. Vous avez le droit de juger que c'est un homme de gauche ou pas? Tant que vous voulez. Olivier Faure me faisait pas envie au début, mais c'est pas trop mal au final. Bah Olivier Faure, il a multiplié par deux le score du Parti Socialiste aux élections législatives. Grâce à la relative victoire de Raphaël. Non, pas Raphaël. Si, Raphaël Glucksmann, aux élections européennes. Grâce aux multiples triangulaires surtout. Il y a eu très peu de triangulaires hein, aux législatives de 2024. Vous vous souvenez, le Front républicain, on en parlait, les désistements républicains. Il allait dire Jean-Jacques Glucksmann. Non, mais... Chaque fois j'oublie le prénom, c'est Raphaël Glucksmann. Je suis emmêlé. Faure est un équilibriste, mais je ne sais pas combien de temps il peut tenir. Alors ça dépendra du prochain congrès du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'à mon avis, ce qui se joue dans le bureau d'Emmanuel Macron, là aujourd'hui, c'est en grande partie aussi le prochain congrès du Parti Socialiste. Que vont dire les militants socialistes? Est-ce que les militants socialistes vont vouloir que le Parti Socialiste reste dans le NFP, ou est-ce qu'ils vont vouloir que le Parti Socialiste sorte du NFP pour lancer une aventure social-démocrate avec Glucksmann, avec Cazeneuve, etc. C'est ça la question. Et c'est une question stratégique importante hein, pour un parti comme le Parti Socialiste. C'est quand le congrès PS? C'est pas après Noël? Attends. Congrès socialiste. Le prochain congrès, il a lieu quand? Putain, il y a une page Wikipédia avec la liste de tous les congrès. Oh. Le dernier, c'était l'an dernier à Marseille. Et le prochain, c'est je sais pas quand. Quelqu'un a la date dans le chat, je suis preneur. Mais si d'aventure les militants socialistes décidaient de quitter le nouveau Front Populaire et de faire cavalier seul pour tenter de recréer une gauche social-démocrate, qu'est-ce qu'ils vont faire les députés proches d'Olivier Faure? Ben, ils vont pas changer d'avis en fait. Ils vont rester qui ils étaient avant en fait, ils vont rester NFP. Donc en fait, c'est même pas le prochain congrès du PS qui détermine quoi que ce soit. Si, ça va déterminer quand même qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste et quelles seront les investitures éventuellement pour les élections prochaines. C'est début 2025 le congrès du PS. Merci Déclantère. Début 2025 le congrès du Parti Socialiste. Dans la Constitution, il n'y a pas de délai pour nommer un Premier ministre? Non. Il n'y a pas de délai pour nommer un Premier ministre. Y a aussi des députés qui suivent la ligne du parti, c'est pas complètement anodin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Garde leur indépendance au demeurant. Commence à recréer une gauche social-démocrate, le NFP, outre le FPA, le NPA reste social-démocrate. Si tu veux. Si tu veux. T'auras du mal à en convaincre les sociaux-démocrates, mais t'as le droit. La procédure de destitution n'a aucune chance d'aboutir. Non. Non, faut être réaliste, la procédure de destitution du président de la République, il faut réunir les deux tiers, je crois, de l'Assemblée et du Sénat. On est loin, on est large. C'est pas les deux tiers, c'est les trois cinquièmes. Ok, c'est encore pire. Ça avancerait à quoi en plus? Ah bah ça nous ferait une élection présidentielle! Me dites pas que vous seriez pas content! Il n'y aurait plus Macron s'il était destitué. On ferait une nouvelle présidentielle. En plus, la gauche est unie. Donc ce serait Lucie Castel, la candidate unique de la gauche. Elle sera au second tour face à Marine Le Pen. Elle gagne. Sauf s'il y a des gens à gauche qui veulent se présenter en solo. Mais ça m'étonnerait. Le Pen battrait Castet. Ah, tu penses? J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. On l'avait pas déjà donné gagnante en 2022, Le Pen? Je sais pas, hein. Est-ce que Éric Zemmour se représenterait candidat? Après la tôle à 7% là, est-ce qu'il retente le coup? Et Pécresse, sans vouloir manquer de respect à la présidente de la première région de France, la candidature de Pécresse ne changerait pas grand-chose. Pardon. Celle d'Anne Hidalgo non plus. Bah, c'est pas déterminant. Et Poutou. Tiens, est-ce que Poutou, il serait candidat? « 7%, c'est pas une giga méga tôle non plus, il pourrait se dire. » Tu as raison. Honnêtement, non, si on reste sérieux 2 minutes, les 7% d'Éric Zemmour, c'est pas non plus totalement dégueulasse. Effectivement, c'est que dalle à côté des 24, je sais plus, pourcent de Marine Le Pen. Mais ça peut être le genre de pourcentage qui peut manquer à Marine Le Pen pour se maintenir au second tour en même temps, putain. Je sais pas, j'en sais rien. Il faudrait une condition où le second tour est très incertain. Les deux dernières élections présidentielles, on a quand même eu une tripolarisation de la politique avec 3 leaders forts qui se sont retrouvés au-dessus de la mêlée au premier tour et tout le reste qui était derrière de manière un peu risible. On avait Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Zemmour sondé à 17%. Alors je vous rappelle que quand Zemmour a créé son parti Reconquête et qu'il s'est lancé dans la course à la présidentielle, c'était à la rentrée 2021, à la rentrée de septembre, et les sondages le donnaient entre 20 et 25%. C'était énorme. Oui, t'as raison, il y avait Fillon en 2017. Ouais, vous avez raison, il y avait aussi Fillon qui était assez haut. Malgré l'affaire, Fillon a réussi à se maintenir avec un score très respectable, ouais. S'ils étaient 4 en 2027, ouais. Donc voilà, donc Zemmour s'est déclaré candidat en septembre en disant « Je vais la plier, Marine Le Pen, elle est nulle ». C'est ce qu'il disait à l'époque. Hein. Et puis bon, voilà, je crois que les Français, même les Français d'extrême droite, ont jugé sur pièce quand ils ont vu Éric Zemmour dans ses interviews à la télé et dans les débats. Et puis ils ont préféré voter Marine Le Pen, quoi. C'est le vote utile à l'extrême droite, il était pour Marine Le Pen. Respectable, je suis désolé, je dirais honteux. Ah non, 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 non. François Fillon n'a pas fait un score honteux. Malgré l'affaire Fillon, il a quand même réussi à maintenir sa candidature à un score. Il était à combien? 17, 18, un truc comme ça? C'est pas honteux du tout. Il était troisième. Il était devant Mélenchon, ouais, c'est vrai. Il était à 19-20%? 19-20, tu vois, c'est encore plus que ce que je pensais. Ah non, c'est pas honteux. Hein. Oui, c'est vrai, il était en troisième position devant Jean-Luc Mélenchon qui était en quatrième. Ouais, 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 ouais. Ça c'était l'élection de 2017. Du coup, Baudet, Baudet, non. Voilà, Baudet. Thierry Baudet. Où est-ce qu'on peut voir les statistiques de recherche sur Google? Je veux voir quel a été le boom de recherche Thierry Baudet hier. Merde. C'est dans Google Trends? Alors, France, on va mettre sur les 7 derniers jours. Voilà. Thierry Baudet, l'inconnu. Ah, il y a un mec qui a fait une recherche. Il y a 2 mecs qui ont fait une recherche le 1er septembre. À mon avis, c'était des mecs à l'Elysée. Ils disaient, c'est qui déjà ce con? ouais, non, c'est pas mal. Si on met moins d'un jour. Ah, ça, c'est la recherche Thierry Baudet depuis hier. Ça, c'était le pic. Ensuite, ça, c'est la nuit. Ensuite, il y a un regain d'intérêt le matin. Et ensuite, tout le monde s'en branle. Non, c'est intéressant. Sur les 12 derniers mois. Ah ouais, Thierry Baudet. 90 derniers jours. Il est top recherche Wikipédia France. J'adore. Non, mais très bien. Il est top recherche Wikipédia France. Non, mais t'as raison. Attends, je vais aller sur la page Google de Thierry Baudet. Non, pardon, la page Wikipédia. Et on va regarder. Oh, merde. casse-toi. Je voulais regarder quoi? Je voulais regarder l'historique de modifications. Les dernières modifications sur la page Thierry Baudet. 3 septembre, 3 septembre, 3 septembre, 2 septembre, 2 septembre, 2 septembre. La giga mise à jour. Le mec. La plus grande modification de page Wikipédia. Tout le monde s'est mis à faire sa bio. Non, non, je respecte, hein, c'est très impressionnant. Avec des textes pas dégueux, hein, tu vois, là, 501 signes, 307, 20, 64, 645. Oh, il y a un mec qui s'est chauffé là. C'est où la diff? Le mec, il a écrit un pavé, hein. Le 18 janvier 2020, en tant que président de la mutualité française, il se déclare favorable à la légalisation de l'euthanasie et à la réalisation des euthanasies par les mutuelles. Quoi? Non, mais c'est n'importe quoi. Si une réforme allait dans ce sens, alors je suis pour que les mutuelles se feraient encore pionnières en créant des lieux et des conditions permettant d'exercer cette liberté. Oh. D'accord. Ok, le. Ok. Non, les gens sont chauds, hein. Les gens sont chauds. La mort mutuelle. Allez. Alors, en cherchant sur Google, sur YouTube, pardon, je suis tombé sur une vidéo de Thierry Baudet. Comme ça, vous allez voir sa voix et son visage. Merde, c'était laquelle? C'est celle-là. C'est quand il était à la tête de la mutualité française.
Je retiendrai trois moments clés qui illustrent comment l'histoire de la mutualité éclaire son présent. Tout d'abord, les sociétés de secours mutuels au XVIIIe siècle, en quelque sorte la préhistoire de la mutualité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces sociétés, elles ont émergé comme autant de réponses collectives aux aléas qui peuvent frapper la personne seule. Bien, c'est toujours cette ambition initiale que nos mutuelles poursuivent. Nos propositions récentes en matière de prise en charge de la dépendance en témoignent.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est du premier ministre matériel, ça. On a de la constance, on a de la carrure. Un petit côté déhanché tranquille avec le coude sur la rambarde. Le verbe clair. En vrai, il a l'air sympa. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi, il a l'air sympa. On est sur du Jean Castex. On est sur du Jean Castex sur 20. Castex de Wish. Il manque l'accent. C'est vrai qu'il manque l'accent. Ça fait pas assez terroir. Thierry, t'es pas assez terroir. Enfin, en même temps, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, c'est pas non plus méga le terroir, hein. Pour un premier ministre de gouvernement technique, il est nickel. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, je le prendrais, moi, en premier ministre de gouvernement technique. Écoute, frère, t'as pas de majorité, tu peux rien faire, vas-y. Et tu dois pas crever au premier budget. Essaie de nous bricoler un truc. Démerde-toi, Titi. Ouais. Non, 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 c'est. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, attendez, non, j'avais vu un autre truc que je voulais vous montrer, que j'avais bien aimé. C'est un thread Twitter de Cécile Duflot. Un thread Twitter de Cécile Duflot. Hop. Elle fait des threads super intéressants, Cécile, quand elle s'y met, et ça, c'est très très chouette. Et elle a fait un thread de Mémé Cécile, je crois. C'est pas Tati Cécile, c'est Mémé Cécile. Mémé Cécile qui raconte des trucs de la politique. Bon, la pioche, ça fatigue un peu, donc il est temps de se poser. Petite réflexion un peu périphérique sur ce qui arrive au gouvernement, et notamment une grave erreur du président, deux points, la directeur de cabinetisation du poste de Premier ministre. Un peu de Mémé Cécile en 19 tweets. J'adore les threads de Mémé Cécile. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas bien ce qu'est un directeur ou une directrice de cabinet. C'est la tour de contrôle politico-administratif d'un responsable exécutif, un président, un ministre, un maire. Son rôle est d'articuler orientation politique et travail d'administration. Il gère aussi le travail de tous les membres du cabinet, représente son élu dans des réunions ou des rencontres diverses, mais il doit toujours référer à l'élu. Il est choisi par lui ou elle. C'est la personne de confiance hyper stratégique, un bras droit. Quand Édouard Philippe est nommé en 2017, une petite info passe presque inaperçue. Un grand nombre de conseillers de cabinet seront communs entre l'Élysée et Matignon. Efficacité, fluidité, modernité, tout le wording Nouveau Monde y est. Effectivement, c'était une nouveauté en 2017. Pour que ce soit hyper fluide entre Matignon et l'Élysée, il y avait des membres de cabinet qui étaient à la fois du cabinet du président de la République et du cabinet du Premier ministre. C'était le même bonhomme qui était chargé des dossiers éducation dans les deux cabinets. C'est sûr, en termes de fluidité, on ne peut pas faire mieux. Mais la réalité transparaît dans l'article cité. Il s'agit de fliquer le Premier ministre. D'ailleurs, dès que ce dernier commence à vouloir exister et ne pas être qu'un exécutant, il sera remplacé par Jean Castex. Là, on raconte l'élu local et l'accent du sud-ouest. La réalité est qu'il a été directeur de cabinet de plusieurs ministres et même secrétaire général de l'Élysée. Alors ça, c'est faux. Jean Castex a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Mais faut, c'est un détail. Donc il endosse sans peine ce rôle de Premier ministre directeur de cabinet, collaborateur éclairé du président, mais collaborateur dans l'âme et dans les faits. Il a d'ailleurs poursuivi sa carrière à la tête de la RATP comme un serviteur de l'État, que son parcours prouve. Rebelote avec Elisabeth Borne, plus d'histoire de petites élues locales, c'est une préfète, au service de la République donc, et ce qui la concerne avec intelligence et talent. En ce qui la concerne, avec intelligence et talent. Elle était effectivement préfète, Elisabeth Borne. C'est d'ailleurs quand elle se piquera d'avoir un avis, entre guillemets, et de commencer à faire de la politique en manifestant certains désaccords qu'il optera pour Gabriel Attal. Une carrière d'assistant parlementaire et de collaborateur de CAB avant de devenir ministre. Ça, c'est Gabriel Attal. Même histoire. Celui qui aurait dû rester à sa place, selon le président, a commencé d'user de ses privilèges de Premier ministre, qui sont très vastes, j'y reviendrai. Et la sanction n'a pas tardé. Il sera un des plus brefs Premiers ministres de la 5e. On raccourcit les épisodes. Dissolution, élection législative avec deux leçons, des aveux fermes de la politique du président de la République et mobilisation contre le RN, et une situation, aucune majorité absolue. Le président de la République a joué de cette situation de blocage en faisant mime de concerter, mais en réalité... Mais la réalité est qu'il fait passer des entretiens de recrutement avec une utilisation légèrement toxique de la publicité d'ISSE. J'adore la plume de Cécile Duflo. Il pose ses conditions et soumet des personnes à une sorte de grand oral. C'est ce qu'il a fait avec Lucie Castet. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait avec Lucie Castet est d'ailleurs un modèle du genre. Tous les témoins ont raconté qu'il avait bombardé de questions auxquelles ils disent qu'elle avait répondu brillamment. Mais au fond, c'est totalement inadéquat. Il ne s'agit pas de recruter un collaborateur, mais de créer un tandem politique avec un Premier ministre capable de travailler avec le Parlement. Parce que le seul qui est responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Son gouvernement peut être censuré, à froid ou après l'engagement de sa responsabilité via le 49-3. Le président n'est pas dans ce cas. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement et le PM qui ont le pouvoir très large de gouverner, pas le président du tout. Alors ça, c'est vrai quand t'es en cohabitation, mais on en reparlera. Qui acte d'une décision... Attends, excusez-moi, je me suis perdu. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement et le Premier ministre qui ont le pouvoir très large de gouverner, pas le président du tout. Les bleus qui actent une décision sont sous la responsabilité de Matignon et les réunions d'arbitrage interministériel se font sous l'égide de Matignon. Ça, c'est vrai. L'autorité du président provient essentiellement du fait que les députés lui doivent son élection et qu'il a une majorité qualifiée. C'est donc un pouvoir moral bien plus que formel. Si le Premier ministre veut exercer pleinement ses prérogatives de président, le président a un rôle résiduel. Pardon. Si le Premier ministre veut exercer pleinement ses prérogatives, le président a un rôle résiduel. Après ses 7 ans d'expérience, il me semble que cette dérive qui ramène le Premier ministre à un rôle d'exécutant est une erreur grave. Les tensions et les rapports de force sont sains en politique. Ils permettent de doser ce qui est acceptable ou non pour un pays. Lorsqu'une personne, même élue au suffrage universel, gouverne par caprice, basée sur son confort et sa seule analyse, il déséquilibre tout l'édifice démocratique. Là, nous sommes en train d'atteindre un point cosmique et comique. le président de la République cherche donc un Premier ministre directeur de cabinet, mais d'opposition. Il est donc à la recherche d'un mec, ça on avait remarqué, qui serait un opposant, mais qui lui obéirait en tout point. Ce n'est pas la recherche d'un Premier ministre, mais la chasse au Dahu, et donc ça peut durer longtemps. Ça pourrait être l'occasion, ou un peu ridicule, non, pardon, ça pourrait être cocasse ou un peu ridicule s'il n'y avait pas la France en jeu dans cette histoire. La période que nous vivons devrait peut-être obliger tous à retrouver le vieux style, celui du sens de l'État et de la grandeur de la politique, celui de la sincérité. Très très chouette, thread de Cécile Duflot. Effectivement, elle rappelle quelque chose qui m'était un peu sorti de la tête, c'est qu'Emmanuel Macron a systématiquement changé de Premier ministre quand le Premier ministre commençait à vouloir faire des trucs en autonomie. Après le Covid, quand Édouard Philippe a commencé à s'émanciper de l'Élysée, il a été viré, on l'a remplacé par Jean Castex. Après Jean Castex, il y a eu les élections et ça a suivi avec Elisabeth Borne. Quand Elisabeth Borne a commencé à l'ouvrir, elle a été dégagée et on a mis Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, semble-t-il, a des très mauvaises relations avec Emmanuel Macron depuis qu'il est Premier ministre. Donc, 5 mois après d'avoir été nommé Premier ministre, dissolution et Gabriel Attal va dégager, présente sa démission. Donc effectivement, on a un président de la République capricieux qui estime que le Premier ministre doit être un collaborateur. Et je suis d'accord avec Cécile Duflot, là, le petit cirque auquel on assiste, vous et moi, depuis plusieurs jours, là, c'est une espèce de casting. Emmanuel Macron, premier DRH de France, fait passer des auditions à des premiers ministres et il voit si ça lui plaît ou pas. Alors, là où je mets toujours un bémol là-dessus, c'est que je vous rappelle ce que je vous disais hier, c'est qu'à la différence d'une cohabitation, le président de la République a son mot à dire là. Donc, c'est pas complètement faux le fait qu'Emmanuel Macron jauge les prétendants au poste pour voir s'il peut bosser avec eux. Le poste de Premier ministre, c'est un CDD. Toujours. Non, c'est un CDI sur siège éjectable. L'Élysée a un incroyable talent. Oui, c'est ça. Macron coach The Voice. Donc ouais, Emmanuel Macron fait passer des auditions. Pour se trouver un opposant. Parce qu'en fait, c'est ça le paradoxe. Et c'est là qu'elle a raison Cécile Duflot. C'est qu'Emmanuel Macron a dit au NFP, quand ils sont allés le rencontrer avec Lucie Castet, qu'il avait reconnu qu'il avait perdu les élections et que donc la politique qui sera menée devra être une politique différente de la sienne. Donc Emmanuel Macron est d'accord pour reconnaître qu'il va falloir que ça change. Mais il se garde la main pour désigner qui va faire changer et à quelles conditions. Et il place ses pions. C'est fou quand même. Si le Premier ministre ne démissionne pas, est-ce que Macron peut le licencier ? Alors, la logique institutionnelle veut que non, la logique politique veut que oui. Je m'explique. Il y a deux situations à prendre en compte. La situation dans laquelle le président de la République a une majorité de députés et la situation où le président de la République n'a pas de majorité de députés. Si le président de la République a une majorité de députés, alors il est un peu libre de faire ce qu'il veut avec ses premiers ministres et il peut les dégager s'il a envie. Parce qu'il est l'autorité morale qui dirige la majorité. Tous les députés de la majorité le soutiennent. Évidemment, ils ont été élus grâce à lui. Et puis, pas seulement pour ça, aussi parce qu'ils sont d'accord avec lui. Et donc, si le président de la République veut changer de premier ministre, bah, il peut changer de premier ministre. C'est ce qui s'est passé un nombre de fois incalculable sur la Ve République, à droite comme à gauche. Et c'est ce qui s'est passé là, effectivement, avec Jean Castex, avec Gabriel Attal, etc. Le président de la République peut décider de changer de Premier ministre et donc de virer un Premier ministre en exercice. Dès lors que le Premier ministre ne procède pas de la légitimité du président et de sa majorité, mais d'une autre légitimité majoritaire, alors là, le président de la République ne peut pas virer le Premier ministre. Il n'en a pas les moyens politiques. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un Jacques Chirac Premier ministre de François Mitterrand. Et François Mitterrand ne peut pas le virer. Bah non, parce que Jacques Chirac, il a une majorité. Donc il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il gouverne. Là, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est complexe. Parce que pour qu'un Premier ministre soit légitime au Parlement, à l'Assemblée nationale, il faut qu'il esquive des motions de censure et il ne peut, ça ne peut se faire qu'avec le soutien des macronistes, donc d'Emmanuel Macron. Dès lors, est-ce que le prochain Premier ministre sera redevable d'Emmanuel Macron? En partie, oui. En partie, oui. Puisqu'Emmanuel Macron aura sur son bureau un bouton rouge sur lequel il lui suffira d'appuyer pour qu'une motion de censure soit votée contre ce Premier ministre. Donc tu vois, la réponse à ta question, elle n'est pas si simple que ça en fait. Il s'est coincé tout seul, Macron. Il s'est coincé tout seul, oui et non, parce que Macron n'a pas complètement perdu la main politiquement. Emmanuel Macron n'est pas un nain politique à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron représente une centaine de députés macronistes qui sont dans une position de pivot et dont il faudra bien avoir le soutien d'une manière ou d'une autre pour gouverner ce pays, que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême droite, de ce que vous voulez. Donc, on est dans un espèce de Macron de Schrödinger qui a à la fois perdu et gagné. J'aime pas cette expression parce que la notion de gagner des élections législatives est devenue un peu complexe. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il a le pouvoir de détruire ce qu'il n'a pas les moyens de réaliser selon ses exigences. C'est très joliment dit. C'est très joliment dit, effectivement. T'as raison. C'est une bonne valeur de droite, ça, le chantage. Alors croyez-moi bien que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, il ferait pareil. Hein. Alors là, Jean-Luc Mélenchon, céder du terrain? Jamais! Évidemment qu'il ferait pareil. Heureusement d'ailleurs, je veux dire, c'est pas complètement con. La République, c'est lui. Ouais. N'importe quoi. Ah, tu crois que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, il se précipiterait pour nommer Premier ministre celui qui a 200 députés? Non, je crois pas, non. Non. Non, non. Non, non, il négocierait. Et il aurait bien raison. Genre un Bardella par exemple. Oui, c'est ça, un petit Bardella là qui arrive, qui a gagné les élections législatives avec une majorité relative. Ah non, non, Mélenchon, il ferait son boulot de président de la République. Il recevrait dans son bureau les responsables de l'ancienne majorité, de la gauche, il leur dirait: bon, les enfants, c'est pas compliqué, soit on se met d'accord pour gouverner ensemble, soit c'est l'extrême droite qui gouverne. C'est vous qui voyez. Tu crois pas qu'il respecterait la pratique de nommer un Premier ministre issu du camp qui est arrivé en tête des législatives? Non, parce que arriver en tête des législatives, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a arrivé en tête avec 340 députés, comme c'était le cas à l'époque du PS ou de l'UMP, où là, évidemment, c'est la pratique, c'est pas seulement, c'est l'obligation, en fait, tu es obligé politiquement de nommer cette personne. Et puis, il y a arrivé en tête avec 200 députés. Et arriver en tête avec 200 députés, ça te permet pas de prétendre à Matignon en claquant des doigts, en fait. Ça ne s'impose pas au président de la République qui peut avoir du coup une marge de négociation. Comment t'as interprété le move de Mélenchon de proposer un gouvernement NFP sans ministre LFI? Je l'ai trouvé très habile. Très, 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 très habile de la part de Jean-Luc Mélenchon de proposer ça. Parce que ça remettait la pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron en le forçant à se positionner, puisqu'il avait dit que c'était LFI qui était bloquant. Bah regardez, on retire LFI, vous faites quoi maintenant? Et bah comme un con, Emmanuel Macron, il a bégayé. Et on l'a vu bégayer, hein, il a été obligé de se dire, de nous sortir un communiqué de presse pour dire non, mais Lucie Castet, de toute façon, elle serait censurée immédiatement, etc. Machin. Donc c'était très malin de la part de Jean-Luc Mélenchon. L'autre raison pour laquelle c'était malin, c'est que ça lui permettait de se détacher du gouvernement Castex. Si d'aventure Lucie Castex était nommée Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, en étant en dehors du gouvernement, aurait pu à la fois être un soutien au gouvernement, puis en devenir le critique à l'approche de 2027, en disant « Ah non, on n'a pas participé à ça. Ce gouvernement qui déçoit, nous, on n'en faisait pas partie. » Donc de garder aussi la fraîcheur de l'opposant qui propose une alternative en 2027. Donc c'est doublement très habile de la part de Jean-Luc Mélenchon d'avoir proposé ça. En cas de motion de censure par le NFP et votée par le RN, il se passe quoi ? Est-ce que Macron leur demande de faire un gouvernement ? Non, mais Macron aura des arguments pour se moquer du NFP. La stratégie des deux extrêmes infréquentables, Emmanuel Macron dira « Ah bah voilà, ah bah regardez, bah voilà, félicitations, la gauche et l'extrême droite, ensemble, main dans la main, pour censurer un gouvernement de centre ou de centre-droit ou de centre-gauche, j'en ai rien à foutre. » Voilà, donc il utilisera cet argument auprès des Français en disant soit vous votez pour ces gus-là qui sont incapables de se mettre d'accord et qui votent que des motions de censure, soit vous votez pour moi, etc. Mais on retombera dans le même on retombera dans les mêmes travers que ceux dans lesquels on est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le besoin de nommer un Premier ministre. Des arguments malhonnêtes si on réfléchit à peine. Alors, je te ferai remarquer que c'est des arguments qui sont aussi utilisés par la gauche. Hein. Quand le RN vote des lois macronistes, la gauche se précipite pour dire « Ah bah voilà, regardez, bah voilà. Macron et l'extrême droite, main dans la main. » Et quand la gauche et les macronistes se retrouvent temporairement à être du même côté, par exemple en ne votant pas une motion de censure du RN, que dit le RN ? Ah bah voilà, regardez, les macronistes et les woke, enfin la gauche, main dans la main, c'est bien ce qu'on dit depuis le début, c'est bien un gouvernement de gauche, il faut le censurer, machin, etc. Donc voilà. Mais ça, ce sont des arguments classiques, habituels. Faut pas... C'est normal. Le camp d'en face vous accuse d'avoir des amis infréquentables. C'est pas mes amis, hein. Ah ouais, vous avez voté pareil, alors c'est qu'en fait vous êtes un peu copains quand même. Bah non, en fait, nique ta mère. Pardon, faut pas parler comme ça. On n'a dit pas les mamans. Pas les mamans, par contre, les grands morts, ça passe. Ok, d'accord. Je garde les grands morts. Après, ils avaient dit qu'ils éliraient Bardella, même avec une majorité partielle. Ah non. Attends, moi, si je me souviens bien des déclarations de Jordan Bardella avant les élections législatives et entre les deux tours, il disait « Si je n'ai pas de majorité absolue, je ne gouverne pas. » Je crois me souvenir de ça. Hein. Parce que c'est vrai que c'est la difficulté pour le RN, c'est qu'ils n'ont pas d'alliés, à part Ciotti et ses quelques députés. Il n'y a pas trop de marge de négociation. LR veut pas gouverner avec l'extrême droite, donc il le ferait pas, tu vois. Est-ce que le NFP a des marges de négociation ? Est-ce qu'ils ont des alliés potentiels ? Bah, Lucie Castel a dit qu'elle allait en trouver. Chez les macronistes, du coup, de fait. Bon, pour l'instant, on a Sacha Houlier. C'est pas ouf. C'est un bon début. À quel point le budget proposé récemment va influencer le prochain gouvernement ? Très peu. Très peu, parce que ce n'est qu'une première étape dans le travail budgétaire et il sera toujours loisible au prochain Premier ministre de modifier le budget. Par contre, il ne faudrait pas que ça tarde là. Excusez-moi, Emmanuel Macron, tu m'entends? Emmanuel Macron, il s'agirait quand même de nommer un Premier ministre là, parce qu'on est déjà le 3 septembre. Le budget, ça commence à être sec. Voilà, hein. S'il vous plaît. LFI dépose une proposition de résolution pour destituer le président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de résolution, donc un texte qui va être soumis au vote, proposant de destituer le président de la République. Pour que ça marche, il faut que ce texte soit voté aux 3/5 des députés et aux 3/5 des sénateurs. Ensuite, le Parlement se réunira en haute cour pour juger de ce qu'a fait ou de ce que n'a pas fait le président de la République et à l'issue pourra décider de sa destitution. Ainsi va la procédure. J'ai vu un truc du Monde disant que le gouvernement étudiait l'hypothèse d'un décalage de la clôture du budget. Est-ce que c'est envisageable? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas parce que là, on rentre dans la technicité pure du travail budgétaire. Tout ça est très technique et très 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 spécial, mais un gouvernement qui a une majorité peut prendre des décisions budgétaires. Et puis de toutes les manières, je vous rappelle que un budget, c'est voté pour un an, mais qu'en cours de budget, on peut voter des lois rectificatives. Hein. Si Lucie Castel est nommée en janvier ou en février prochain, eh ben le premier truc qu'elle fera, c'est déposer un projet de loi de réforme, enfin un projet de budget rectificatif, changé en cours d'exercice. Si le président ne nomme pas le Premier ministre avant octobre, les autres partis pourraient entrer dans la destitution. M'étonnerait. M'étonnerait, parce que de toute façon, il faut les 3/5 du Sénat, ça veut dire qu'il faut les Républicains. Les Républicains, je vous avoue que c'est, enfin, je vous rappelle que c'est eux qui ont refusé de censurer Elisabeth Borne à plusieurs reprises au nom de la stabilité institutionnelle. S'il y a bien un truc que détestent les Républicains, c'est l'instabilité. Tu veux destituer un président de la République, les Républicains, ça m'étonnerait. Hein. En plus, c'est des gaullistes et tout, je sais pas. Surtout au Sénat. Ah ouais, surtout au Sénat. Surtout au Sénat. Voilà. C'est aussi LR qui voulait destituer Hollande. Non. LR n'a pas proposé la destitution de François Hollande. À un ou deux députés LR qui ont dit dans les médias que ce serait bien de destituer Hollande au moment du mariage pour tous. Mais le parti l'a pas proposé. Ils n'ont pas engagé la procédure, ils n'ont pas déposé la motion, donc non. C'est pas parce que tu racontes des conneries sur un plateau télé que c'est un truc, c'est une position de l'ensemble du groupe et qu'ils vont le faire. Jean Massier, Premier ministre. Bah moi je veux bien, mais le problème c'est que j'ai Baxit le jeudi et voilà. Je peux pas être Premier ministre en ayant Baxit une fois par semaine, c'est pas possible. Kamala ou Trump dans 2 mois? Vous imaginez, on aura une rencontre entre Lucie Castel et Kamala Harris, rencontre d'État. Ça aurait de la gueule. Ou alors ce sera Trump et Macron. Moins ouf. C'est fou, hein, le destin du monde se joue à rien. déjà vu surtout. Oui, en plus, t'as raison, c'est déjà vu. Macron et Trump. Oui, Macron avait invité Donald Trump à dîner à la Tour Eiffel. Moi, j'avais trouvé que c'était très habile de la part de Macron de faire ça. Parce que Trump est un gros con, c'est un gamin qui n'a que des étoiles dans les yeux, de la richesse, de l'or et de la vulgarité. Donc tu lui fais le truc le plus cliché que la France peut proposer. Et il sort de là en se disant « good guy, France, good country, I like it ». C'est vraiment... Et oui, il y avait le défilé du 14 juillet, effectivement, le défilé du 14 juillet, je me souviens. Pareil, même délire. Trump, c'est un espèce de gros misogyne avec une masculinité toxique, etc. Viens, on lui fait assister à un défilé militaire, il va adorer. En plus, il est à moitié dictateur dans la tronche, donc... c'est pas mal, c'est bon plan. Tu dis hey, « t'as vu les chars d'assaut, là? T'as vu les avions? Ouais, c'est impressionnant, hein ?» France, amazing, I like. Il a adoré le défilé. Ouais, ouais. Donald Trump, il a déclaré qu'il avait kiffé le défilé militaire et qu'il avait proposé qu'il y ait un défilé militaire annuel aux États-Unis. Il avait proposé ça et les Américains lui ont répondu mais c'est une idée de merde parce qu'en fait les seuls qui font des défilés militaires dans le monde c'est qui? La Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la France. Alors bon, la France, ok, c'est des potes, mais on a vraiment envie de ressembler à ça? La Chine, bien sûr, la Chine. Excusez-moi, j'oubliais la Chine, évidemment, Donald Trump. La Belgique? Non. Vous avez ça aussi en Belgique? Faites un défilé chaque année. Vous voulez pas qu'on arrête? Venez, on arrête. Venez, on se dit collectivement qu'on fait pouce. À la fête nationale. Oh la vache. Oh, c'est pas le meilleur truc qu'on vous a inspiré, ça. On est désolé. Hein. Au nom de la France, je suis désolé. Voilà, c'est pas ouf. Tous les 21 juillet dans les rues de Bruxelles. Oh la tristesse. Ah, je dis ça pour vous, je dis ça pour nous aussi. Hein, mais bref. Mais non, c'est très important le défilé militaire. Le Figaro y tient, donc il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Non, c'est important. On va pas supprimer le défilé militaire et l'Académie française la même année. Ça tu fais ça, tu fous le feu à la rédaction du Figaro, les mecs, ils pètent un plomb. Non, faut respecter un peu quand même. Faire ça, faire les choses bien. Non. On peut fermer le Figaro aussi ? Non, on ne peut pas fermer le Figaro. Non, on ne ferme pas les rédactions des journaux qu'on n'aime pas quand on arrive au pouvoir. On fait pas ça. Enfin, si, Chavez l'a fait. Ouais, bon, mauvais exemple. Non, on fait pas ça. Allez, Justin, s'il te plaît. Non, ça suffit. Non, mais arrêtez, commencez pas à balancer des noms de rédaction que vous aimez pas dans le chat. Il y a une liberté de la presse dans ce pays qui est garantie par la loi, qui est un principe constitutionnel. Non, mais en fait, je sais que vous rigolez. Mais à mon avis, il y en a 2-3 dans le chat qui sont vraiment premier degré en mode « Mais pourquoi le gouvernement, il fermerait pas des journaux ?» En fait, c'est une bonne idée, non ?
Oh putain.
Même les médias racistes. Mais c'est pas le gouvernement qui ferme les journaux, c'est la justice. C'est pas la même chose. Sur décision de justice, il peut y avoir des infractions aux règles sur la liberté d'expression et la liberté de la presse, auquel cas ce sont des décisions judiciaires. Mais c'est pas le gouvernement qui décide des médias. L'ARCOM, c'est la justice des médias. Oui, en partie, c'est le régulateur. C'est pas tout à fait la même chose. On n'utilise pas les mêmes mots. C'est fait exprès. C'est le régulateur de l'audiovisuel. Et par ailleurs, l'ARCOM a un autre pouvoir. C'est le pouvoir d'attribuer des fréquences. Ce dont les journaux n'ont pas besoin, je vous rappelle. La presse écrite n'a pas besoin de fréquences pour émettre. Les télés et les radios ont besoin de fréquences qui sont attribuées et renouvelées ou pas par celui chargé de l'affectation, qu'est l'ARCOM. Est-ce que le gouvernement peut enclencher une action judiciaire pour décider du besoin ou non de fermer un média? Le procureur de la République peut lancer une instruction judiciaire, une enquête, en vue de mettre à jour d'éventuelles infractions à la loi, qu'il ira ensuite présenter devant un juge indépendant qui lui prendra la décision. Le procureur peut se saisir, il peut s'auto-saisir le procureur. Il peut aussi être saisi par des plaintes. Le gouvernement peut-il décider d'arrêter de donner des subventions aux journaux possédés par des milliardaires? Oui. Oui, il peut. Je suis pas sûr que ça passe devant la justice. Parce que c'est un critère discriminant qui me paraît pas ouf. En revanche, tu peux... Alors j'en sais rien, parce que vraiment je suis pas un spécialiste, faudrait demander à des députés qui ont bossé sur le sujet, mais tu peux modifier les règles d'affectation des subventions des organes de presse en faisant une relation entre l'empire financier du possédant et le titre de presse. Jean Massier ferait un très mauvais autocrate, je suis déçu. Je suis d'accord avec toi. Je le reconnais bien volontiers devant vous, je serais un très mauvais dictateur. Ouais, pas ouf. Des aides financières sous conditions de ressources, ce serait discriminant. Peut-être. En fait, j'en sais rien. C'est typiquement le genre de truc sur lequel le Conseil d'État doit se pencher pour donner un avis au gouvernement en disant ça vous pouvez faire, ça attention, il y a un vide, enfin il y a pas un vide, il y a un risque juridique, vous vous opposez à des difficultés là-dessus. Jean défend la liberté d'expression, la connerie. Mais explique-moi, je t'en prie, je t'en supplie même, explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a de con à défendre la liberté d'expression? Le Conseil d'État ne penche pas à gauche ou à droite? Non, c'est pas son rôle, et ils font pas ça, c'est des magistrats, les mecs. Conseil d'État, c'est des techniciens du droit. Qui sont là pour accompagner le gouvernement dans ses projets en leur permettant de borner juridiquement leurs projets. Un gouvernement qui veut faire un projet de loi, une réforme, je sais pas quoi, il écrit un projet, il le soumet au Conseil d'État, et le Conseil d'État il va faire article par article, il va dire alors ça, effectivement, vous pouvez faire ça comme ça, mais là vous risquez ça, donc on vous suggère plutôt de mettre un sous-alinéa qui mettra ça, là il va falloir faire quand même une réforme du code de machin, donc on vous suggère de modifier l'article 100 tant, tant et tant, là attention, si vous faites ça, ça risque d'être inconstitutionnel, vous faites ce que vous voulez, mais c'est chaud, voilà, c'est ça qui fait le Conseil d'État, en tout cas dans son rôle de conseiller du gouvernement. Après il peut aussi casser les décisions des cours administratifs d'appel, mais ça c'est autre chose. Est-ce que le gouvernement peut se pencher sur les procédures Bayon abusives, par exemple quand Bolloré fait un procès à chaque fois qu'un média cite son nom, même s'il perd à chaque fois? Oui, effectivement, ça c'est un truc, à mon avis, il faudrait réformer. Alors, je ne sais pas s'il faudrait réformer la procédure, parce que c'est une question de liberté d'action en justice qui est quand même importante pour tous les justiciables, quels qu'ils soient, Vincent Bolloré comme les autres. Mais par contre, tu peux créer des infractions sur des procédures abusives. Ça existe déjà d'ailleurs, il y a un délit de procédure abusive. Si vous portez plainte contre votre voisin une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et qu'à chaque fois vous perdez, votre voisin peut porter plainte contre vous pour procédure judiciaire abusive et vous pouvez être condamné par la justice qui vous dit arrêtez de porter plainte, putain, vous avez perdu à chaque fois, vous êtes chiant. Cassez-vous. Abus de droit. Ouais, c'est ça, abus de droit. Et ça, les juges détestent. Ah, ça, les juges! Je vous ai, s'il y a bien un conseil que, judiciaire que je vous donnerai sur cette chaîne, ne prenez pas les juges pour des cons. C'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Non. Puis ce petit jeu-là, ils sont plus forts que vous. Ni les procureurs. Non, ni les procureurs, pareil, évitez. Hop, pardon. Et si vous êtes placé en garde à vue, vous ne dites rien et vous demandez un avocat. Mais surtout, vous ne dites rien. Sauf si t'es meilleur que l'avocat. Non, bah à ce moment-là, tu dis rien, tu gardes ton silence. On peut avoir un jus de citron avec son avocat. Si t'es vraiment meilleur que l'avocat, tu saurais qu'il faut garder le silence. C'est vrai, absolument, c'est vrai. Vous savez, moi je suis tombé dans un rabbit hole sur YouTube. C'est devenu. Enfin, c'est. Je suis dans une période en ce moment true crime. Vous savez, on a tous des périodes à un moment. Et moi, je suis dans ma période true crime. Donc, je regarde des trucs sur des crimes, sur des enquêtes judiciaires, sur des procès et tout machin. Et aux États-Unis, au Café Le Dup, pour faire dodo. Aucun expo. Non, mais non. Oui, alors ça aussi, évidemment, je suis dans l'horreur sur Internet, le paranormal et tout ça, c'est aussi un kiff. Mais particulièrement en ce moment, je regarde des chaînes YouTube qui vous font aux États-Unis des explications très longues sur des affaires judiciaires, un meurtre par exemple, un truc comme ça. Et ce qui est fou, et c'est là que tu vois que les États-Unis c'est un pays fou par rapport à nous en Europe, c'est qu'aux États-Unis il y a un droit quasi absolu à avoir accès en tant que citoyen aux documents de l'administration. L'administration, c'est aussi le cas en France. On a une obligation de transparence, etc., même si elle est bornée par une loi et tout. Mais aux États-Unis, il y a un principe où tu peux demander à la justice d'avoir accès aux éléments du dossier de telle affaire. Le Freedom of Information Act, exactement. Et donc, il y a des chaînes YouTube qui sont montées et qui vous racontent toute une histoire d'un crime, de son enquête, de son élucidation et de son procès, avec toutes les vidéos qui sont pas libres de droit, mais qui sont obtenables sur simple demande aux États-Unis. Et donc, vous avez la body cam du policier qui fait l'arrestation, parce que ça, c'est le document vidéo est public. Donc, vous avez accès au putain de fucking fichier vidéo du body cam du policier qui fait l'arrestation du suspect. Ensuite, il l'emmène au commissariat, il le met dans une salle d'interrogatoire. Vous avez accès à la caméra de la salle d'interrogatoire avec le son. Donc vous avez des heures de vidéos d'interrogatoire de suspects par des enquêteurs de la police. Et vous avez un mec sur YouTube qui vous fait du commentaire pour vous expliquer ce que sont en train de faire les enquêteurs. Là, ils ont trouvé une faille dans l'argumentaire du prévenu. Là, ils viennent de lui dire qu'il avait menti. Là, ils sont en train de réussir, machin. Enfin, et toi, tu regardes ça, les yeux éberlués, en disant, mais c'est dingue, je suis en train de regarder un interrogatoire de police en live, en mode fucking télé-réalité. Et à la toute fin, vous pouvez avoir des extraits du procès, parce qu'aux États-Unis, les procès sont filmés. Et ça, pareil, ça me fucked up à un point stratosphérique, mais aux États-Unis, bah, tous les procès sont filmés et vous avez accès aux plaidoiries des avocats, machin, etc. Enfin, complètement dingue. Il y a des chaînes de best-of de procès. Pas tous les procès, non, pas tous. Pas tous les procès sont filmés. Les procès criminels le sont. Les procès dans lesquels il y a des mineurs, je crois qu'ils peuvent pas les filmer pour protéger les mineurs. Enfin bref, il y a des trucs comme ça. Et donc voilà. Et pourquoi je vous rappelle ça? On partait d'où déjà? Oui, si, on parlait justement du fait qu'il faut fermer sa gueule en interrogatoire de police. Moi, du coup, je regarde ces vidéos où je vois un prévenu menotté ou pas devant des policiers. Les policiers, selon la procédure, commencent par lui lire ses droits. Vous avez tous vu ça dans les séries, les fameux trucs, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit d'un avocat, vous avez le droit de machin. Et à la fin, les policiers, ils font signer le papier au prévenu en lui disant, bon, on est d'accord que ça, ce sont vos droits, vous les signez, ok, et maintenant que vous avez signé, est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec nous? Et là, le prévenu, il dit, oui. Et moi, je suis là, je fais, mais non, mais ferme ta gueule, mais dis rien, il vient de te lire tes droits, il vient de te dire que t'avais le droit au silence, t'as le droit de ne rien dire, tu vas te mettre dans la merde tout seul. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais, c'est les Miranda Rights aux États-Unis, les Miranda Rights. Et systématiquement, dans toutes les vidéos que je regarde, le prévenu se met dans la merde tout seul parce qu'il parle aux policiers. Il croit qu'il va réussir à les embobiner. Il croit qu'il va réussir à trouver un alibi, un machin, etc. Machin. Et à chaque fois, ça foire. Parce qu'évidemment, bah, en fait, c'est vachement dur de mentir. À chaque fois, les enquêteurs de la police, ils réussissent à trouver un truc. En plus, y a un truc que tu ne sais pas quand t'es dans la cellule d'interrogatoire là, du commissariat. Tu ne sais pas quelles sont les informations qu'ont les policiers. Évidemment, ils vont pas te les donner tout de suite, hein. Ils vont les garder. Ils te font croire d'ailleurs qu'ils savent pas grand-chose. Expliquez-moi, présentez-vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faisiez hier, etc. Toi, t'as l'impression que les mecs, tu vas pouvoir les embobiner, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'ils ont déjà vu les images de vidéosurveillance, qu'ils ont déjà eu auditionné des témoins, qu'ils ont déjà. Les mecs, ils ont plein d'infos. En fait, t'es déjà dans la merde, mais tu vas te mettre dans la merde encore plus tout seul en leur parlant. Donc voilà. Donc si vous êtes coupable. C'est à la police de le prouver, c'est pas à vous de vous mettre dans la merde vous-même. Donc fermez-la, taisez-vous, demandez le silence, demandez un avocat et ne parlez pas. Même si vous n'êtes pas coupable. Même si vous n'êtes pas coupable. Ah oui, parce que par ailleurs, ça aussi j'avais vu une vidéo d'un avocat aux États-Unis qui avait fait une conférence devant une classe, je crois, d'étudiants en droit. Qui leur disait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est facile de s'incriminer soi-même quand on parle à des flics. Vous pouvez être innocent. Vous pouvez être innocent. Et en une simple conversation avec la police, vous allez vous incriminer vous-même sur des trucs. Et vous ressortez de là avec des charges qui vont être présentées devant un juge. Il y a plein de délits, vous y pensiez même pas, mais en fait, c'est des délits que vous faites. Et ça part en comparution immédiate. Ah ouais, non, mais complètement. Donc vraiment, mais fermez vos gueules. Et si pareil, si vous avez commis un délit, si vous parlez aux flics, ça peut augmenter les charges que vous allez prendre sur la tronche. Non, mais vraiment. Y a un mec qui a avoué le meurtre de son père encore en vie. Ouais, alors ça, évidemment, il y a aussi les erreurs judiciaires aux États-Unis, c'est quand même un délire, où effectivement, les policiers, avec leur technique d'interrogatoire, parfois, ils réussissent à faire avouer des délires, des trucs, mais. Oh! Il y a un mec comme ça qui a avoué avoir tué son père, parce que les policiers enquêtaient pour meurtre. Et un mec a avoué avoir tué son père, et en fait, plus tard dans l'enquête, on a compris que le père était toujours en vie. J'ai pas très bien compris comment ça s'était mal goupillé à un endroit, mais le mec avait avoué un crime qui n'existait même pas. Ah, disparition, c'est ça, oui, c'est ça. Le père avait disparu, personne ne savait où il était. Les policiers ont cuisiné le fils en lui disant alors, il est parti où, etc., machin. Et le fils, au bout de je sais pas combien d'heures d'interrogatoire, il a craqué, il a dit ouais, je l'ai tué. Il a tout détaillé, hein. J'ai pris une arme, ou je l'ai étranglé, je sais pas. Et en fait, plus tard, on a découvert que le père avait disparu parce qu'il s'était juste barré. Il est pas mort. Non, mais c'est horrible. Enfin, tu vois jusqu'où ça va. D'ailleurs, vous avez vu la série sur Netflix, Making a Murder, dont on pourrait parler longuement, qui a fait l'objet de beaucoup de vidéos YouTube là aussi d'analyse et tout. Mais très très bon, très très bonne série justement sur tous ces enjeux-là, quoi. Patrick Dils en France. Ouais, Patrick Dils en France, t'as raison, putain, j'avais oublié. Patrick Dils, victime d'une erreur judiciaire, mais horrible, où les policiers lui ont soutiré des aveux, c'est ça? Et ça a mis des décennies à ce que le mec soit blanchi, etc. Enfin, pff, truc horrible. T'as déjà dû en parler, mais c'est quand la rentrée de Baxit? La rentrée de Baxit se fera le 14 septembre prochain, le samedi 14 septembre à 18h, en direct de la fête de l'Huma. Émission spéciale rentrée politique avec Lucie Binet, Notre invitée politique, Sophie Binet, pardon, je confonds avec Lucie Castet. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui sera notre invitée politique en deuxième partie d'émission. Venez voir Backseat et si vous voulez venir sur place à la fête de l'UMA pour profiter de Backseat et en plus profiter de tout le reste du festival, vous pouvez avoir une place pour 3 jours à seulement 50 euros au lieu de 60 grâce au lien sponsorisé. Point d'exclamation Backseat dans le chat. Hâte de vous voir sur place. C'est quoi le super pouvoir des avocats pour empêcher les flics de te piéger? C'est de te dire de fermer ta gueule. Quand vous êtes en garde à vue, que vous demandez un avocat, votre avocat il vient vous voir. Premier truc qu'il vous dit, c'est est-ce que vous avez parlé? Et si vous lui dites « Ah ouais, ouais, on vient de passer 2 heures en interrogatoire, là », il va faire « Eh merde, putain. » Bon, qu'est-ce que vous avez dit? Et faites-moi le menu précis de tout ce que vous avez dit. C'est hyper important que je le sache. En France aussi? Ah oui, oui, en France aussi, oui. En France, pareil, hein, un avocat... Si on ne connaît pas d'avocat, comment on en trouve? Le commissariat t'en mettra un à disposition. C'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle les commis d'office. Non, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Ils sont bien les commis d'office? C'est la roulette russe, hein. Ça peut être des avocats débutants pas très bons, ça peut être des avocats plus confirmés, ça peut être plein de choses les commis d'office, hein. Donc ouais, donc en tout cas ouais, regarder ces trucs sur YouTube, ça à chaque fois ça reconfirme ça quoi. Je regarde les interrogatoires et j'écoute les mecs, je me dis mais ferme ta gueule, mais oh, là tu viens d'avouer un crime. Tu viens d'avouer un crime, tu t'en es même pas rendu compte. Mais les flics ils l'ont bien noté. Putain, qu'est-ce que t'es con. T'aurais fermé ta gueule, ils avaient pas assez d'éléments pour te poursuivre. Tu pourrais ressortir libre. Ah là, c'est fini, t'as pris 20 ans. Juste parce que t'as parlé. On s'éloigne de l'actu. Bah ouais, mais en même temps, l'actu, on se fait chier, excusez-moi, hein. On parle de crime, etc. Parce que l'actu, il se passe que dalle, là, on s'emmerde. Qu'est-ce qui se passe? Manuel Bompard affirme avoir été invité à discuter avec Emmanuel Macron au sujet de la nomination du Premier ministre. Le président de la République me fait appeler avec Mathilde Panot, présidente du groupe, pour des échanges dans 15 minutes. Nous dénonçons ces improvisations et nous refusons les tentatives désespérées de diviser notre coalition, a écrit à l'instant Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise sur X. Et de décliner aussitôt l'invitation. De point ouvrir les guillemets, nous réaffirmons notre position commune telle que publiée la semaine dernière dans un communiqué du Front Populaire. Le président de la République doit nommer Lucie Castet à Matignon. Dans l'attente, nous ne participerons à de futurs échanges avec le président de la République que pour travailler sur les modalités de cette cohabitation. Donc, les socialistes ont accepté d'aller rencontrer Emmanuel Macron seul. Les insoumis, eux, ont refusé. On verra ce qui leur sortira. Est-ce que c'est le début de la fin du nouveau Front Populaire? On verra. Et les écolos? Bah les écolos, visiblement, ils n'ont pas été invités. Hein. Après, c'est pas eux qui pèsent le plus lourd, faut le reconnaître. Malgré tout le respect qu'on a pour les écolos, c'est pas le groupe de députés le plus imposant. C'est surtout les insoumis et les socialistes les plus importants. C'est dommage de refuser alors qu'il pourrait y aller et ne rien dire et demander un avocat. La prise d'otage de la nation a trop duré. Nous demandons un avocat. Excusez-moi, on vous dérange, monsieur Macron, pardon. On voudrait un avocat, nous tous, là. Parce que bon, ça fait des jours qu'on attend, c'est le bordel, on comprend rien. On voudrait être représenté et connaître nos droits, quoi. Non? Non, bon, dommage, on a essayé. Il faut combien d'élus à gauche pour arriver à une majorité? Alors que ce soit de gauche, de droite ou de diagonale, il faut 289 députés pour arriver à une majorité absolue. Après, je te rappelle que Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont gouverné avec une majorité de seulement 245. Pas suffisant pour faire une majorité absolue, mais suffisant pour esquiver les motions de censure, puisqu'il y avait toujours des députés pour s'abstenir de les censurer. Depuis combien de temps il n'y a pas eu de majorité absolue? Depuis 2022. Ça fait 2 ans. À part ça, depuis 1958, il y a toujours eu une majorité absolue. Sauf en 88. Mais c'était ric-rac, enfin bref, c'était kiff-kiff, ça passait. Si on compte LR plus PS, combien d'élus en plus il faut à gauche? Je comprends pas ta question. Pourquoi plus à gauche qu'ailleurs? Regarde, je vais te montrer. Hop, je vous présente mon meilleur ami, le simulateur de coalition du Figaro, qui vous permet de simuler vous-même vos coalitions. Alors, tac, 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 tu m'as dit. Les Républicains, les Socialistes, ça fait 113. Plus les Macronistes. Alors, on rajoute les Macronistes. Il en manque 10. Les là. Hmm. 279, ça peut suffire à gouverner, hein. Il suffit que les Liottes s'abstiennent. Et franchement, ça passe, hein. Mais la droite républicaine et les socialistes n'ont pas envie de gouverner ensemble, ni l'un ni l'autre. Parce que faire ça, c'est juste donner raison à Macron. Hein. C'est juste donner raison à Macron. Macron, son rêve depuis 2016, c'est le dépassement des clivages gauche-droite, le dépassement des appareils et gouverner ensemble. Je vois pas pourquoi il lui offrirait ça après 7 ans de pouvoir macronien et alors que le macronisme est en train de crever, quoi. Enfin, je sais pas quelle analyse on en fait, mais je pense que le macronisme existera toujours, qu'il y aura des résidus à l'Assemblée nationale, des personnalités, des groupes centristes, plus ou moins, etc. Comme il a toujours existé des radicaux. Bon. Le rêve de Macron, c'est de gouverner seul. Alors, il l'a déjà fait, entre 2017 et 2022. Et il l'a quasiment fait, entre 2022 et 2024. Et puis, si le rêve de Macron, c'était vraiment de gouverner seul, pourquoi il a dissous ce con? Non, mais il y a un moment, enfin... Je veux bien, mais... Le mec se tire la plus grosse balle dans le pied de l'histoire. Il avait 245 députés. Ça suffisait. C'était pas agréable, mais ça marchait. Il a dissous dans des conditions où, de toute évidence, il n'allait pas gagner. Après une victoire du RN, en plus, aux européennes. Macron a dissous car LR avait décidé de ne pas voter le budget. Ouais, mais moi, ce que je dis toujours, c'est... Ok, je veux bien le croire. Macron disait, oui, j'ai dissous parce que, de toute façon, il y aurait eu une motion de censure à l'automne, sur le budget. T'as raison. Ok, mais à ce moment-là, pourquoi t'as pas attendu la motion de censure? Vas-y, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de la logique. Le gouvernement Gabriel Attal est censuré par le Parlement. Il présente sa démission. Toi, tu dissous l'Assemblée nationale dans la foulée. Et là, on fait de nouvelles élections. Mais la story, elle n'est pas la même. Ce que tu racontes aux électeurs, c'est pas du tout pareil. Là, tu dis aux électeurs, chers amis, malheureusement, le Parlement, les forces de droite et de gauche ont voté ensemble pour m'empêcher de continuer à gouverner. C'est dommage. Je vous propose de voter pour mes candidats qui représentent la ligne qui vient d'être balayée au Parlement. Mais vous, le peuple, ne vous faites pas avoir par ces enjeux d'appareil, par ces logiques de parti. Tu fais un discours à la Gaulien ? Bah, à mon avis, t'as plus de députés à la fin. Hein. À mon avis, ça marche mieux. Et je suis même pas sûr que la gauche y continue la NUPES. Hein. Je suis même pas sûr que le Nouveau Front Populaire il aurait existé dans ces cas-là. Si tu tiens ce discours-là devant les Français, en vrai, les Français ils peuvent se dire « Ouais, non, c'est dégueulasse d'avoir censuré Attal. Nous, on aimait bien Attal. » Parce qu'en plus, apparemment, Gabriel Attal a une bonne cote de popularité. Il y a quand même pas mal d'électeurs qui se seraient dit « Ouais, non, moi, je vais voter Macron. C'est quand même dégueulasse. C'est vraiment des vieux partis à la con, là, qui l'ont... C'est une alliance baroque de l'extrême droite et de la gauche, machin. » Peut-être pas mal d'électeurs qui auraient voté Macron, tu vois. Là, Macron, il dissout après s'être pris une tôle aux européennes. On a Jordan Bardella qui est loin devant. Et là, Macron, il dissout. Du coup, il pose une question aux Français. Il dit, alors les Français, vous confirmez que vous me mettez une tôle ou pas? Si c'est ça la question que tu poses aux Français, t'étonnes pas que la Français, ils répondent, bah ouais, en fait. Bah ouais, tu nous saoules. Je sais pas. La story est pas la même. Tu présentes pas les choses de la même manière, tu dissous pas dans les mêmes conditions et t'expliques pas la, tu racontes pas la même histoire aux électeurs. Surtout que les JO auraient été parfaits pour oublier les européennes et se refaire une beauté. Ouais, en plus t'as pas tort. En plus t'as pas tort, ouais. C'est con, hein, le côté JO, ouais, la France est réunie, tout ça. Ça peut marcher, hein, sur certains électeurs, ça peut jouer. Un petit peu. Est-ce que c'est commun pour les duos président-premier ministre de finir par ne plus s'entendre ou c'est très Macron? Non, c'est commun. C'est commun. Fillon et Sarkozy se sont engueulés. Ils se parlent plus. Hollande et Valls. Hollande et Cazeneuve. Ah, ça, on verra. Chirac et Balladur, oh là là. Balladur a pas été premier ministre de Chirac, si? Ah si, au début. Si, t'as raison. Mais non, Balladur était premier ministre de cohabitation. Mitterrand et Rocard, ouais. Jospin et Chirac, oui, mais ça c'est normal, ils étaient en cohabitation. Quand t'es en cohabitation, c'est normal de détester ton premier ministre, c'est la base. C'est un connard, ton premier ministre. C'est ça, une cohabitation. Mitterrand et Chirac, est-ce que tu crois qu'ils s'apprécient les deux? Crois qu'ils boivent le thé? Et encore, Balladur et Mitterrand s'aimaient bien. Balladur et Mitterrand s'aimaient bien. Effectivement, tu as raison. On a appelé ça la cohabitation de velours. Pour dire qu'en vrai, c'était une cohabitation qui se passait pas trop mal. Pompidou et De Gaulle, ouais, Pompidou et De Gaulle, ouais, c'était triste, hein, la fin était triste. Hein. Quand De Gaulle est mort, Yvonne De Gaulle n'a pas voulu que Pompidou soit présent aux obsèques. Enfin, c'était quand même... Waouh, c'était froid. Par contre, Jean, ferme ta cave, on entend les gamins crier. Elle est même pas ouverte, ma fenêtre. Vous entendez les gamins dans la rue, là? Moi, je les entends, mais c'est normal. Enfin, voilà. Mais vous les entendez? Ben, ils sont au square, là. Il est quelle heure? Il est 18h. Eh, faudrait rentrer, hein. C'est l'heure des dessins animés, là. Putain, c'est vrai, ils crient fort. Hein. Bon, bref. Faut aller faire ses devoirs. Je viens d'arriver, du coup c'est bon, c'est Macron Premier ministre. Ouais. Jusque-là, on est toujours sur un mot de Macron, ouais. On est toujours sur un mot de Macron Premier ministre. Non, bah je sais. Voilà, mais moi ce que j'en sais, c'est que ça se joue toujours entre Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, pardon, excusez-moi. Ça penche plus pour Bernard Cazeneuve, vu que le président de la République a reçu à l'Élysée les socialistes et il a voulu recevoir les insoumis. Alors, nouvelle information du Monde. D'après plusieurs sources internes au Parti Socialiste, le chef de l'État, le patron du Parti Socialiste et le chef des députés PS ont discuté par téléphone cet après-midi, peu avant 17h. Avant tout entretien, messieurs Vallaud et Faure voulaient s'assurer que monsieur Macron contacterait ensuite les autres forces de la gauche, ce à quoi il s'est engagé selon nos sources. Ah. Donc, les socialistes ont eu Macron au téléphone vers 17h. Ils ont dit à Macron, par contre, vous ne nous la faites pas à l'envers. Vous appelez les autres forces de gauche, hein, on n'est pas les seuls que vous avez au téléphone. Essayez pas de diviser le NFP. Du coup, Macron a proposé à Manuel Bompard et Mathilde Panot de la France Insoumise de les avoir au téléphone, ce que eux, ils ont refusé. Voilà, on en est là. Pour vous dire depuis l'interne, oui, c'est le bordel. Raphaël, tu m'envoies un texto hein, s'il se passe des dingueries. Hein. Genre si t'es nommé ministre ou je sais pas quoi. Raphaël Rémy Leleu dans le chat qui est une élue parisienne d'Europe Écologie Les Verts. Regarde ton WhatsApp.
What?
Ah! Attendez, bougez pas, excusez-moi. Ok. Donc selon des informations que j'ai obtenues, je vous dirai pas de qui, rien n'avance. Rien n'avance parce que c'est le bordel. Les socialistes ont discuté avec Macron, les écolos vont discuter avec Macron, les communistes ont discuté avec Macron, les insoumis refusent de discuter avec Macron. Et le NFP discute pendant ce temps-là. Putain, ça doit chauffer sur les boucles WhatsApp du NFP. Super BFM TV. Ok, BFM TV. Ouais, ouais, excusez-moi. En direct du terrain, Jean Massier, streamer, je vous tiens au courant. Dès qu'il y a davantage de dingueries, on est sur le coup, hein, avec toute la rédaction. Avec toute la rédaction. Donc tout le NFP, sauf la France Insoumise, discute avec Emmanuel Macron. Ah, après, je sais pas ce qu'ils disent, hein, quand on dit discuter. Quand j'écris pas des bouquins, je fais la vaisselle en cuisine, ou la cuisine en écoutant Jean. T'as bien raison. ELV aussi, ouais. ELV apparemment discute avec Macron. Non mais Macron, il a fait chauffer le téléphone, hein, il a appelé tout le monde. Hein. Après, je crois que c'était en présentiel pour Vallaud et Faure et pour Roussel et Chassaigne, pour les communistes. Donc moi, ce que ça m'indique, là, tout ce bordel, c'est que ce serait plutôt du Bernard Cazeneuve, là. Il m'a appelé aussi Macron, j'ai pas compris. Alors, si un président de la République vous appelle, vous avez le droit de demander un avocat. Vous pouvez garder le silence. Si on vous appelle pour devenir ministre et tout, moi c'est pareil, hein, si on m'appelle pour devenir ministre, je dis que je peux pas, j'ai backseat. Je peux pas, j'ai backseat. Tu réponds pas. Ouais, je le laisse en vue, ouais. Je décroche, mais je dis pas un mot. Si le président vous appelle raccrocher, c'est sûrement un scam. Au pour on en est. Et vous savez ce que c'est l'indice pour savoir si c'est un scam ou pas, si un président vous appelle? Si il vous dit Bernard Cazeneuve, là vous dites non, c'est bon, ça va, on est entre gens sérieux ici. Et vous raccrochez. Si le président réclame le CPF, c'est pareil. S'il place pas en même temps dans sa phrase, c'est un scam. Euh... Pourquoi pas Ruffin, en fait, parce que Ruffin est très isolé. Ruffin, il a vocation à être candidat à la présidentielle, il n'a pas vocation à être Premier ministre. Et si le président nous appelle pour qu'on participe à Baxit? Ouais, non, c'est pas l'Élysée qui fait les plateaux de Baxit, c'est moi. Désolé. C'est ma prérogative, c'est la Constitution qui prévoit ça. Est-ce que le président peut nommer un binôme comme Premier ministre? Non. Non, c'est un poste unipersonnel. Tu penses que Ruffin peut faire la présidentielle? Oui. Oui, Ruffin peut être candidat à l'élection présidentielle. Que se passe-t-il si le président se nomme lui-même Premier ministre? Bah, le Conseil constitutionnel dit non. Du coup, il serait candidat face à Jean-Luc Mélenchon? Mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. Il sera aussi candidat face à Macron. Ah bah non, Macron, il peut pas. Et bah, Attal. Il y a un texte dans la tribune de Pro Cazeneuve et ça s'appelle Collectif LSD pour les sociodémocrates. Alors j'avais vu une tribune passer, moi je crois que c'était dans Libé ou je sais plus où, qui de trois socialistes. Et puis pas les plus haut placés, hein, qui disaient qu'il fallait dégager Olivier Faure de la tête du parti. Allez-y. Enfin, vous avez le droit de publier une tribune, c'est très bien. En même temps, c'est pas de Gaulle qui a fait son référendum contraire à la Constitution. Si, effectivement, en 62. Il a utilisé l'article 11 de la Constitution pour faire un référendum pour modifier la Constitution, ce qui n'était pas prévu par l'article 11. Et aujourd'hui, tous les juristes s'accordent à dire que ce ne serait plus possible de faire ça, puisque le Conseil constitutionnel pourrait censurer les actes préparatoires d'un tel référendum, notamment le décret de convocation des électeurs. Donc voilà, ce qui est une méthode détournée, mais. Après, un juriste, ça se met aux arrêts très facilement. Il existe quelque chose pour qu'un vote par référendum soit respecté, quel que soit le résultat, je pense à 2005. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le référendum de 2005 ne peut pas être analysé seul. Les Français n'ont pas voté que en 2005. Les Français ont voté en 2005 non au traité constitutionnel européen, et en 2007, ils ont voté Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui proposait dans sa campagne et dans son programme de relancer la construction européenne avec l'adoption d'un mini-traité, qui deviendra le traité de Lisbonne. On ne peut pas prendre le vote des Français de 2005 et ne parler que de celui-là. On est obligé de prendre l'intégralité des votes de l'ensemble des Français. Et oui, parfois ça se contredit, ça paraît bizarre. Royal l'aurait fait aussi. Ségolène Royal, dans son programme de 2007, s'engageait, elle aussi, à relancer le processus de construction européenne Alors elle avait une option un peu plus progressiste que celle de Nicolas Sarkozy, évidemment. Il était de droite, elle était de gauche, et elle proposait un angle beaucoup plus social, la naissance d'une Europe sociale, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça passait par la signature d'un nouveau traité, oui. Non, tiens, c'est d'ailleurs, c'est intéressant. Les Français ont voté non en 2005 au traité constitutionnel européen, et en 2007, ils ont mis au second tour de l'élection deux personnalités politiques qui étaient pour le oui au traité constitutionnel européen. Quand même particulier, ça. L'humour français, ça doit être ça. Ségolène, première ministre. Ouais. Oui, je l'ai vu. J'ai vu Ségolène Royal sur un plateau télé, je sais plus lequel, commencer à faire son gouvernement en direct. C'était un poil gênant. C'était ouf. C'était le grand jury. Ouais. La réaction de Marine Tondelier en entendant la proposition de Royal Première Ministre. Oui, j'ai vu Marine Tondelier sur je sais plus quel plateau. On lui dit Ségolène Royal, elle fait. C'est sérieux. Mais arrêtez, bordel. Boire, rien. Royal a failli être tête de liste LFI aux européennes. Putain, mais je crois que je me souviens d'un délire comme ça. Je sais plus où ça avait popé, mais je crois qu'il y avait la piste Ségolène Royal qui était examinée par la France Insoumise. Parce que Manon Aubry, elle est sympa, mais elle a fait un mauvais score en 2019, donc ils étaient pas sûrs de vouloir la remettre. C'était Jean-Luc Mélenchon lui-même. Aux amphis. Ah putain, mais c'est vrai, elle était venue aux amphis. Elle était venue aux universités d'été des insoumis, Ségolène Royal. Elle avait été accueillie et tout. Désolé si mon propos peut choquer, mais ta manche droite est retournée et ça me trigger. Tiens, voilà. J'espère que ça va mieux. C'était pour avoir une liste NUPES aux européennes. Ah oui, c'est ça, c'était les discussions sur une liste commune de l'ensemble de la NUPES. Et le nom de Ségolène Royal avait été avancé par la France Insoumise. Macron Premier ministre. Ouais, vas-y, je vais mettre ça en titre de stream. Voilà, ça c'est plus clair pour tout le monde. Point où on en est, hein. Bon, est-ce qu'on a des news? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça respire encore? Ou est-ce que je dois faire un stream demain? N'empêche qu'on est en 2024 et à part Lucie Castet, on n'a que des vieux noms qui reviennent. Ah, ça! Ça! La politique aime pas trop les nouveaux visages. Hein. Préfère rester sur des vieux. Macron a fait exprès de prendre du temps pour que tu fasses plus de stream. C'est ça. On s'est coordonné avec Macron en fait. Je lui dis bon, hé, hey, fais traîner un peu le truc, s'il te plaît. Moi, ça me fait des chiffres. En plus, les gens, ils s'abonnent. Et du coup, ça me permet de financer mes activités et tout, c'est cool. Merci Raphaël. Qui se resub. Merci Perceval aussi qui se resub. Perceval qui est abonné depuis 78 mois. Ça fait un paquet quand même, hein. 78 mois d'abonnement. Oselius, I am Poupie, Viandox, Logos. Rosalie, Ocytocine, le gars de la com, Frimir, Mr. Fox, KB in Turong. T'as vu le tweet de Bompard? Ouais, j'ai vu. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Emmanuel Bompard et Mathilde Panot refusent d'aller rencontrer Emmanuel Macron pour discuter. Et tout le reste du NFP, par contre, y est favorable. Enfin, d'ailleurs, ils sont pas que favorables, ils l'ont fait. Ils sont allés rencontrer Emmanuel Macron pour discuter. On ne sait pas de quoi ils ont discuté. Mais ça devrait sortir. Perceval, Premier ministre. Ouais, je suis d'accord. Merci, Essila. Bonsoir, Jean Massier. Pourquoi tu es de gauche? C'est personnel. Ça se dit pas. A priori, Macron a demandé à chacune quelle était leur position. Mais trop relou. On est d'accord que Xavier Bertrand va se faire censurer 100%? Ouais, il y a de fortes chances quand même. Pourquoi tu votes UPR, Jean? Ah non, mais je vous avais raconté cette anecdote. Ah, parce qu'il y en a plein qui sont nouveaux sur ma chaîne qui la connaissent pas, parce que ça remonte il y a longtemps. Il y a longtemps, bah, ça fait bientôt 10 ans que je suis sur Twitch, mais il y avait un truc qu'on faisait à l'époque où ma chaîne s'appelait Acropolis, c'était une web TV. Il y avait un truc que je faisais, c'est que j'allais souvent rencontrer les abonnés dans les villes. En province, on allait boire des coups. On allait boire des coups. On l'a fait à Lyon, on l'a fait à Rouen, on l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Lille, on l'a fait à Nancy, Strasbourg, etc. Enfin bref, on allait boire des coups avec les abonnés et on passait un bon moment. C'était sympa, etc. Tard l'époque, ouais. Alors, on a arrêté avec le Covid et on n'a pas repris après. Les apéropolis, voilà, on appelait ça les apéropolis de la chaîne Acropolis. Et le truc que je faisais à l'époque, parce que c'était encore à l'époque où l'UPR faisait rire les gens. Vous vous souvenez de l'UPR? L'UPR en 2017 qui demandait à tout le monde sur internet « Bonjour, tu connais l'UPR? Bonjour, vous connaissez l'UPR? Bonjour, vous connaissez l'UPR ?» Et bref, quand on était dans le bar avec les abonnés, moi je prenais un selfie et je postais sur Twitter un tweet avec la photo en disant « Réunion locale des militants UPR de… » et je mettais le département où on était, genre le Rhône, etc. machin. Et je postais ça systématiquement sur Twitter. Le but du jeu, c'était de voir combien de militants UPR prenaient premier degré mon tweet comme une vraie annonce de on est des militants, on est nombreux et on est parce qu'en plus en général il y avait du monde quand même dans le bar, tu vois, j'avais une trentaine de personnes et tout. Et ça marchait trop bien. Ça marchait trop trop bien. Il y avait plein de comptes UPR qui répondaient au tweet en disant « Ouais, trop bien, bravo, bisous depuis la Normandie, ouais, bisous depuis la Bretagne, ouais, on est super nombreux et tout. » Alors que tout le monde sait que les UPR, ils sont juste deux par département à tout péter, tu vois. Et donc, ça nous faisait vachement marrer. On faisait ça dans toutes les villes de France et tout, et c'était la blagounette, et je faisais systématiquement la même blague. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans les couloirs de la maison de la radio, j'étais interviewé, je sais plus où, dans une radio, et dans les couloirs, je tombe sur un journaliste que je connais, qui vient me voir, qui fait « Hey Jean, ça fait trop plaisir de te voir et tout, c'est trop cool ce que tu fais et tout, non c'est vraiment sympa, ça fait longtemps. » Et là d'un seul coup il prend un espèce de ton grave et puis il me dit, en baissant la voix, il me dit « Mais par contre, enfin je suis désolé mais je savais pas du tout que t'étais… » Enfin je veux dire que t'étais… Enfin je savais pas que t'étais à l'UPR. Et moi je le regarde en mode « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et lui il me dit… Ah non, pardon, mais enfin je sais pas, enfin j'ai vu des tweets passer, enfin je veux bien, je comprends si tu veux être discret là-dessus et tout, et je lui ai fait mais MDR, mais pas du tout, et du coup je lui raconte la blague, je lui dis mais en fait je fais ça pour déconner, enfin je fais ça pour voilà quoi, et il me dit ah putain la blague est trop drôle, ah non mais t'as trop raison, c'est hyper marrant, excuse-moi, non mais moi voilà j'étais tombé dans le panneau, j'avais cru que t'étais à l'UPR, etc. Non non bah laisse tomber, etc. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de faire la blague. Parce que je me suis dit, s'il y en a un qui a pu tomber dans le panneau et croire vraiment que j'étais de l'UPR, en fait, il doit y avoir 1000 personnes qui doivent se dire « Ah ouais, Jean Massier, là, le mec de Twitch, non, mais il doit être à l'UPR, lui. » Voilà, donc j'ai arrêté, en fait, de faire cette blague. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne me verrez plus faire cette blague. C'est dommage, elle a été drôle à l'époque, mais je la ferai plus. Jean qui assume pas d'être passé par l'UPR. alors que tu es de l'UDI. Alors ça aussi, c'est vieux. Oh, c'est un vieux truc. C'était en quelle année? 2020, 2019? Je sais plus. L'UDI, donc l'UDI, c'est le parti de centre-droit libéral historiquement giscardien, c'est les giscardiens, l'UDI. Ils ont fait une carte d'adhérents de l'UDI spécial anniversaire, parce que c'était l'anniversaire des je sais pas combien d'années de fondation de l'UDF, de Giscard, par Giscard. Et donc, ils ont sorti une carte d'adhérents avec la tronche de Giscard dessus. Mais un truc tout pété, quoi, avec un graphisme pourri. Et sur le site internet de l'UDI, il y avait une carte. Donc, cette fameuse carte, c'était un gif qui tournait en 3D comme ça, sur le site. Et c'était glauque au possible. À l'époque, on avait fait un stream, on avait fait le tour de France des sites internet des partis politiques. En stream. Et donc, on avait regardé les sites internet de tous les partis et tout machin. Et on était tombé sur le site de l'UDI. Et il y avait cette putain de carte en 3D qui tournait sur elle-même. Et ça nous a tellement fait rire avec le chat. On était tellement morts de rire que on a fait un donation goal pour le The Event qui était à tant d'argent, j'adhère à l'UDI. J'adhère à l'UDI pour avoir cette putain de carte. Et donc, on a rempli le The Event, on a rempli l'objectif du The Event, et donc j'ai pris ma carte à l'UDI, j'ai adhéré en ligne pour recevoir cette fucking carte et pour pouvoir la montrer en stream. Et ensuite, la carte, je l'ai bazardée dans un placard, j'en avais plus rien à foutre. Et d'ailleurs, je l'ai perdue cette carte, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais essayé de remettre la main dessus, mais je l'ai jamais retrouvée. Je l'ai perdue dans le déménagement, elle doit être au fin fond d'un tiroir, je sais pas lequel, etc. Le truc, c'est que il y a des gens sur Internet qui sont tombés sur mon panneau de donation goal du The Event, où il y a écrit « J'adhère à l'UDI ». Genre, je prends ma carte à l'UDI. Et il y a plein de gens qui se sont dit que du coup, j'étais de l'UDI. Genre, j'étais premier degré membre de l'UDI. Que j'étais giscardien, etc., machin et tout. Et pendant un temps, mais qui a duré un temps, mais monstrueux, il y a des gens qui sont venus me faire chier sur Twitter en me disant, ouais, mais toi, t'es de l'UDI. On ne parle pas à toi. Et le truc a duré, parce que la blague de la carte nous a fait marrer sur cette chaîne. Pendant un mois à peu près. Ah putain, il y a Perceval qui a retrouvé la carte. Yes. Yes. C'était ça la carte. Et ce gif nous avait fait marrer. Et donc c'était parti de là la blague. Et une fois que j'ai reçu la carte à la maison, bah je l'ai montré une fois en stream, on s'est marré, et puis en fait la blague s'est arrêtée là, tu vois, on est tous passés à autre chose, j'avais complètement oublié cette histoire, et en fait pendant genre 2-3 ans, il y a encore des gens qui me le rappelaient de temps en temps, en mode premier degré. Oh ouais, mais Jean Massier, il est pas de l'UDI? Je croyais qu'il avait adhéré à l'UDI. Mais elle n'existe plus cette carte, on est d'accord que c'est un tweet de 2021. Vous voyez, c'est 2021. Non, je suis sûr que la carte aujourd'hui, elle est à chier, hein. Ah, par contre, je reçois toujours les mails de l'UDI. Parce que je ne suis plus adhérent de l'UDI depuis 2020. Par contre, je reçois toujours les mails. Ah bah ouais, ils sont pas cons. Ils ont gardé la mailing list, hein. Donc, vous rentrez tout ça, machin, etc. Mandat, machin, votre cotisation. Elle ressemble à quoi la carte? On peut voir la carte? On n'a pas la photo de la carte? Université d'été, 13 et 14 septembre à Amiens. Ah, désolé, je pourrais pas, je serai à la fête de l'UMA pour Backseat. Et je serais venu avec plaisir. Le studio, ça c'est leur vidéo YouTube. Adhérer. Eh bah, ben, ils sont beaux! Ils sont beaux, l'UDI! Par contre, elle est où la carte? Y a pas la carte! Bon, bah, c'est nul, mais ça me donne pas envie. Par contre, la chemise dans le pantalon. Raphaël, c'est pas possible, hein. On n'est pas au PS ici, hein. Tchoum, tchoum, tchoum. C'est à côté de chez moi, est-ce que je dois m'y rendre? Bon, vas-y, ça peut être sympa, hein, s'ils font des tables rondes intéressantes. Et si c'est gratos? Moi, franchement, ce serait à côté de chez moi, j'irais, hein. Bah après, moi, j'adore la politique, donc oui, je suis du genre à traîner mes baskets. Dans les universités d'été. Merci Perceval pour la carte. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai encore des tournesols. Regarde, Raphaël! Regarde! J'ai encore des tournesols moi aussi. Je t'en ai pas chouré des tournesols à un moment? Alors, les tournesols, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est la monnaie aux universités d'été des écolos. Et c'est ce qui permet d'acheter à boire. C'est des tournesols. Donc, tu vas acheter des tournesols et après, à la buvette, tu donnes pas de l'argent, tu donnes que des tournesols. Et moi, je m'en suis acheté au début, évidemment. Mais le problème, c'est que les écolos, ils m'ont offert des coups à boire. À un moment, ça devenait gênant, quoi. Je pouvais plus dépenser mes tournesols. Du coup, j'ai pas dépensé tous mes tournesols, il m'en reste. Je les garde pour l'année prochaine, hein, c'est les mêmes. Ma fille de 10 ans met ses chemises dans le pantalon, est-ce qu'elle est de droite? Mais non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non, mais les filles, c'est très bien les chemises dans le pantalon. C'est les garçons. Et les chemises dans le pantalon, c'est réservé au Parti Socialiste. C'est la règle. En plus, c'est pas vrai, les macronistes aussi, ils ont tous la chemise dans le pantalon. Non, les macronistes, ils ont la cravate en plus. Parce que c'est des DRH. Donc, ils, non, non, ouais, ils vont jusqu'à la cravate, eux. Comme la droite. Et le polo sur les épaules pour les républicains. Oui, Suret, tu as raison. C'est pas le polo, c'est le pull. Le pull en cachemire sur les épaules pour les républicains, t'as raison. Le polo aussi, les macronistes. Ah ouais, le polo? Macron Premier ministre, il peut se nommer lui-même? Non. Non, 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 c'est une blague, hein. Je l'ai mis dans le titre pour rigoler, mais c'est une blague. Tu préfères la politique avec cravate ou sans cravate? Ah non, mais sans cravate, c'est bon. Il y avait eu un mémoire de sociologie politique comme ça sur les tenues dans les partis politiques et les orgas de jeunesse. C'est énorme! Et t'aurais moyen de mettre la main dessus? Y a quelqu'un qui a fait un mémoire là-dessus? Est-ce qu'il peut nommer Brigitte? Oui, Emmanuel Macron peut nommer Brigitte Macron Première ministre. Rien ne l'empêche. C'est vrai. Enfin, rien ne l'empêche. Il y a une Assemblée nationale à un moment qui va voter une censure et à mon avis, ça va être rapide. Mais jusqu'à la censure, nommer Première ministre, hein. Est-ce qu'il est obligé de nommer un humain? Oui. Oui. Il ne peut pas nommer un robot. Non. C'était Rue 89, pour celles et ceux qui s'en souviennent, qui était un site internet d'information qui a été racheté par l'Obs plus tard. Rue 89 avait fait un poisson d'avril, une année, en 2014-2015, je crois, un truc comme ça. Non, c'était avant 2012 d'ailleurs. C'était en 2010, je crois. Bref, ils avaient fait un poisson d'avril où ils avaient dit que un matériel top secret était essayé en secret à Matignon et à l'Élysée. C'était un ordinateur, un algorithme, une intelligence artificielle développée par une société très, très discrète qui avait développé une machine qui accompagnait les décisions politiques. Et l'article racontait, il faisait semblant de, alors c'était un poisson d'avril, il faisait semblant de dire que les ingénieurs mettaient dans la machine des sondages d'opinion, qui mettaient aussi des textes de loi, qui mettaient des courbes économiques, et que la machine produisait des décisions politiques pour aider le gouvernement, etc. Et il y avait même des députés d'opposition qui avaient joué le jeu, qui avaient participé à une interview. Et c'était très drôle. Le Premier ministre doit-il forcément être français? Je le suppose, mais je ne sais pas sur quoi ça se base. Il doit y avoir un truc sur les règles ministérielles. Est-ce que Macron va aller à la fête de l'UMA? Alors, je pense qu'il en meurt d'envie. Je pense qu'il en meurt d'envie. Vraiment. Mais il est possible qu'il ait le sentiment de ne pas y être le bienvenu. Ce qui est dommage. Parce que tout le monde est le bienvenu à la fête de l'UMA. Mais... Il y a les vulves assassines le vendredi. Il a pas envie de rater ça, ouais. Non, je suis d'accord. Non, je pense qu'il va devoir se contenter de regarder Backseat depuis chez lui, comme tous les jeudis. Petite soirée Backseat. Il se fait un plateau repas avec sa femme, avec Brigitte, et il regarde Backseat. Tout le monde sauf les fachos. Ah, les fachos sont invités à se sentir malvenus à la fête de l'UMA. Et c'est bien qu'ils le soient, effectivement. On va être assez clair là-dessus. De la même manière que les Noirs et les Arabes sont pas les bienvenus dans les rassemblements d'extrême droite. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais je sais pas, c'est un exemple. Ils ont qu'à faire la fête du JDD. Oui, c'est vrai. Ils ont qu'à faire la fête du JDD tous les ans. Un grand concert avec Sardou. Et puis des ateliers animés par Hanouna. Le JDDays. Pas mal. Voilà quoi. Sonia Mabrouk en dédicace. Ouais, Sonia Mabrouk en dédicace. Pascal Praud, là aussi, en animateur de table ronde. Et puis, il y aurait des chapiteaux pour manger bah, du cochon. Et puis, il n'y aurait que ça, d'ailleurs, à manger du cochon. Y aurait des stands de tir. Il y aurait des stands de tir, ouais. Un mini Puy du Fou. Ah, bah, il y aurait. Oui, il y aurait un extrait du spectacle du Puy des Fous, avec Philippe de Villiers qui serait là en présentateur. Il y aurait Éric Zemmour aussi en dédicace. Ouais. Il y aurait du vin. Ah, ouais, il y aurait du vin rouge. Du vin rouge. Jean-Marie Le Pen en invité d'honneur. Ouais. Il y a Fabrice Luchini qui viendrait faire des blagues où il referait pour la millième fois son sketch Je ne suis pas de gauche. Il n'est pas facho, Luchini. Ah non, non, il n'est pas facho. Mais ce serait un invité d'ouverture. Ce sera un invité d'ouverture. Comme ça, il pourrait bien dire tout le mal qu'il pense de la gauche. Et puis voilà, ce sera drôle. Bah, il y aura un public. Gaspard Proust fera la première partie, effectivement. C'est chiant, j'aime bien Luchini. Moi aussi, j'aime bien Luchini. Il y aurait des gens de gauche comme Michel Onfray. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aurait des gens de gauche comme Michel Onfray. Ce serait l'ouverture à gauche. Pour montrer qu'ils sont vraiment vachement plus ouverts d'esprit que les gauchos de la fête de l'UMA. Fête de l'UMA, cette espèce de réunion d'intolérants. Ouais, Houellebecq, ouais, bien sûr, il y aurait Michel Houellebecq, il y aurait Alain Finkielkraut, et ils seraient tous là, ils seraient tous à l'affiche d'un grand meeting de clôture de la fête du JDD qui s'appellerait « On ne peut plus rien dire ». Voilà. Et ils auraient l'occasion de le dire une nouvelle fois, très fort dans un micro, et ce serait retransmis en direct évidemment sur C8, sur CNews, sur Canal+. Ouais. Une belle description de l'enfer. Ah bah ça. Alors qu'à la fête de l'UMA, tu peux croiser des militants du NPA qui te donnent un tract. Tu leur dis « Ouais, mais t'es de quel NPA, toi ?» Et ils te répondent « Je suis du bon NPA. » Et puis après, plus tard dans l'après-midi, tu croises un autre militant du NPA, mais il a un tract différent cette fois-ci. Tu lui dis « Mais t'es de quel côté du NPA, toi ?» Il dit « Je suis du bon côté du NPA. » Ça, c'est la fête de l'UMA. Ça, c'est mon ambiance. Là, on rigole. Quelque chose me dit que tu pourras pas payer en tournesol. Non, l'année dernière, à la fête de l'UMA, il m'est arrivé un truc très très drôle et très très fête de l'UMA. C'est après Backseat, je vais boire ma bière. Je vais boire ma première bière de la soirée parce que je suis claqué, etc. On a fini Backseat, etc. Mais putain, j'ai pas eu encore ma bière. Donc je me pointe à un stand n'importe lequel, random. C'était une fédération départementale du PCF, je crois. Je me pointe au bar et le militant, le mec derrière le bar, il me reconnaît. Il fait « Ah Jean, ça va, c'était cool Backseat et tout. » Et il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui dis « Bah, je voudrais te prendre une bière, s'il te plaît. » Et le mec me dit « Non, mais la bière ici, elle est pas ouf. Tu devrais aller au stand en face, elles sont meilleures. » C'est sérieux? Ok. C'est la giga ambiance fête de l'UMA. Et du coup, je me pointe au stand d'en face. Bon, bah, j'arrive, je dis, bah, on m'a dit que vos bières étaient fameuses, est-ce que je pourrais en avoir une? Et le mec me dit, ouais, tu veux quoi comme bière? J'ai de la blonde, j'ai de la ambrée. Ah non, attends, j'en ai une autre, bouge pas, je vais t'en sortir une. Et là, il me sort une pinte. Il me dit, tiens, c'est la mienne, celle-là, goûte-la, dis-moi ce que t'en penses. Du coup, je la goûte, je lui dis, bah, elle est très bonne. Il dit, ok, bah, parce qu'on la sert pas ici, en fait, mais t'inquiète, j'ai une bouteille avec moi, je t'en sers une. Et il se barre derrière pour aller sortir une bouteille de bière, et il me sert une bière de sa bouteille, et tu en m'as dit, what the fuck. Et c'était que le début de la soirée. Et c'était vraiment que le début de la soirée. C'était vraiment génial. Évidemment, j'ai payé. Bah, évidemment, j'ai payé parce que c'est ce qui permet aux militants de venir chaque année, etc. Donc, la bière était très bonne. La bière était très bonne. Mais vraiment, le mec qui me répond, la bière, elle est pas bonne ici, va en face. Je trouve ça magique. Il sait même pas de faire semblant. Est-ce qu'il reste des places pour la fête de l'humanité? Oui, il en reste. Point d'exclamation, Backseat. Prends ta place et viens boire des bières. Et viens manger... J'avais mangé quoi l'année dernière? Je sais plus. Galette saucisse, je crois. Cette année, je vais essayer de me faire une paella. Et ouais. Rougail saucisse. Ah ouais, le rougail saucisse. La Ligo, la fête de l'UMA, ouais. Macron aurait appelé Bompard et Panot il y a quelques minutes. Oui, Bompard et Panot ont annoncé avoir refusé de parler à Emmanuel Macron. Le stand Afghanistan est dingue niveau bouffe. Ouais, carrément. Le stand Afghanistan, c'est ouf. Vlog bouffe à la fête de l'UMA, t'as trop raison. En vrai, t'as trop raison. Ce serait trop bien qu'il y ait un YouTuber ou je sais pas qui fasse une vidéo YouTube uniquement sur la bouffe à la fête de l'UMA. Mais que la bouffe. Moi, je veux bien faire la vidéo que la politique, mais vraiment que la politique, et quelqu'un qui fait aussi que la musique. Voilà, trois vidéos YouTube pour vous faire visiter la fête de l'UMA comme vous l'avez jamais vue. Peut-être qu'il y aura un stand palestinien cette année. Oh, ça fait plusieurs décennies qu'il y a un stand palestinien à la fête de l'UMA. sur la cause palestinienne. Il y en a même plusieurs. Il t'a appelé Macron, toi? Bah non, je lui ai dit que j'étais en live, donc ça m'a... Ça... Voilà, je lui ai dit que ça m'arrange pas, là je suis en live. Je peux pas m'occuper de tout ce qui est gouvernement de la République et live sur Twitch. Et après il m'a dit, ah oui, il m'a dit de vous dire un truc, Macron. Il m'a dit de vous dire que l'abonnement Amazon Prime vous permettait de ne pas avoir à payer l'abonnement. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Twitch de Jean Massier grâce à Amazon Prime. Voilà, ça il voulait que je vous le dise. Je sais pas pourquoi. Oui, mais qui écoute Macron? Ah bah c'est le président de la République quand même. Non, faut obéir les gars. Merci Squilix, merci SK, merci Azawa, merci Siegart pour vos sens républicains. Merci Jujuvé, merci Iliazam, merci Binouz, merci Pastakaché, merci Roulette 39, merci Poirot 33, merci Ekatake, merci Poka. Attends, c'est Poka? Non, c'est un autre. Tu fais le The Event cette année? Non, je ne fais pas le The Event cette année. Merci Myopo, merci Akumakur, merci Sig, merci Gisèle, merci Iz, merci Siegart. Non, je ne suis pas le cuisinier du Twitch FR. Ouais, non, non, mais ça porte à confusion, c'est pour ça. Il y a un nombre de censures de Premier ministre max, genre pendant 2 ans aucun passe. Non, il n'y a pas de nombre de censures maximum, non. Tu peux censurer en boucle les gouvernements les uns après les autres. Que penses-tu des gens qui refusent de parler à Macron? N'est-ce pas une faute de leur part, même si c'est leur droit? Bah, faudrait avoir une réflexion stratégique et tactique. Est-ce que c'est tactiquement intéressant pour la France Insoumise de refuser de parler à Emmanuel Macron? Je pense que non, ils ont été assez clairs sur leur position. Pour eux, c'est Lucie Castel ou rien. Ils proposent la destitution du président, ils veulent pas lui parler. Bon, bah, ça ne surprendra ni leurs partisans, ni leurs adversaires à la France Insoumise. Tu penses qu'on aura un PM pour le 20h? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu l'as peut-être déjà dit, mais c'est quoi la censure en détail? La censure, c'est un des trucs les plus simples. Une loi, c'est compliqué. Une loi, il y a des articles, il y a des dispositifs juridiques, etc. C'est chiant, c'est complexe. Une censure, c'est un texte d'une page ou deux. Bête et méchante, c'est juste un texte écrit par des députés qui disent « Voilà pourquoi nous voulons virer ce gouvernement. » Ce texte est proposé au vote et les députés ont la possibilité de voter sur cette censure. Ils peuvent voter pour, ils peuvent voter contre. On ne compte que les votes pour, évidemment. Et s'il y en a 289, alors le gouvernement est censuré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement a l'obligation légale de présenter sa démission au président de la République. Voilà. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est quoi une motion? La différence entre une motion et un texte de loi, c'est que un texte de loi, ça a un dispositif juridique et légal. C'est producteur de normes, la loi. Une motion, c'est un texte d'orientation politique. C'est un texte d'affirmation d'un principe. On peut appeler ça, notamment dans les conseils municipaux, on peut appeler ça un vœu. Les conseils municipaux, régionaux, etc., ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'adopter des vœux. C'est-à-dire des textes qui n'ont pas de valeur juridique en réalité, qui ont une valeur politique, parce que ça marque une position, mais c'est que ça. Le conseil régional, de Bretagne, peut voter un vœu demandant la paix en Palestine. Voilà. Ça n'a aucune valeur. Ça sert juste à dire que, voilà, nous on affirme ça. Bon. Une motion à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Une motion de censure, elle porte comme dispositif la censure du gouvernement. Mais elle ne porte que ça. Le président peut-il nommer le Premier ministre censuré à nouveau Premier ministre? Oui, il le peut. Mais ce faisant, il s'expose à une nouvelle censure. Mais pour que la censure passe, il faut voter la censure avec le RN. Alors, tu soulèves un point intéressant qu'on a déjà soulevé hier. Je vous rappelle que la gauche ne vote pas les motions de censure déposées par l'extrême droite. Et je vous rappelle que l'extrême droite, le Rassemblement National, vote les motions de censure déposées par la gauche. Dès lors, je soumets à votre sagacité la réflexion suivante. Que se passe-t-il si demain, l'extrême droite décidait d'arrêter de voter les motions de censure de la gauche ? Voilà, voilà. Voilà, voilà, exactement. Il resterait plus que Lyotte. Alors, j'ai vu quelqu'un l'écrire ça sur Twitter. Non, dans un commentaire. Dans un commentaire du live d'hier sur YouTube, il y a quelqu'un qui a dit... parce que je posais la même question hier dans le live, et le mec a dit, du coup, il ne resterait plus que Charles de Courson pour déposer des motions de censure, qui pourraient potentiellement être votées par tout le monde. Et en vrai, il a raison. Vous vous rendez compte du poids politique que prendrait Lyotte et Charles de Courson, qui aurait quasiment seul la possibilité de censurer le gouvernement. C'est ouf, hein? Donc non, ce serait... Alors, pour l'instant, mesdames et messieurs de gauche, je tiens à vous rassurer, l'extrême droite va voter vos motions de censure. Marine Le Pen l'a confirmé. Alors, je dis je vous rassure, ça n'a pas l'air de vous plaire, mais... Le fait est que vous en avez besoin. Si vous voulez réussir à censurer. Voilà. C'est pas ouf, hein? Ouais, c'est moche même. Niveau allié, on a fait mieux. Ouais. Ouais, oui, non, je suis d'accord. Et encore une fois, ce que je vous disais aussi au début de ce stream est important. Si d'aventure demain... un gouvernement était censuré par la gauche et le RN, les macronistes iraient dans tous les plateaux télé dire « Ah bah voilà, regardez, elle est belle, la gauche, qui vote main dans la main avec l'extrême droite, la censure. » Ils auraient pas tort. Donc c'est un argument. Ce à quoi la gauche répondrait, ouais, ça les gênait pas, les macronistes, de faire passer la loi immigration avec le RN. Ce qui est un bon argument. Ce à quoi le RN répondrait, ouais, ça les gênait pas, les macronistes, de voter des trucs avec la gauche, parce que c'est un gros gouvernement de gauche. Alors, en l'occurrence, sur l'IVG dans la Constitution, le RN l'a voté aussi. Poule, renard, vipère. Pas tout le RN. Une partie du RN, pas tous. Vous avez raison. Vous avez raison, pas tous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était quasi unanime. Il manquait quelques voix au RN, c'est vrai. Donc bref, comme d'habitude, hein, chacun va se renvoyer à sa propre responsabilité en disant voilà. Est-ce que je peux faire de la réclame pour les billets Fête de l'UMA à 40 euros auprès des militants. Alors oui, tu peux, je crois que les militants, mais c'est en physique seulement, c'est ça? Si vous rencontrez des militants, ils peuvent vous vendre des billets, des passes 3 jours de la Fête de l'UMA pour 40 balles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir à la Fête de l'UMA, si vous pouvez rencontrer des militants, de leur demander s'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen, vous avez toujours le code promo Baxit qui vous permet d'avoir la même chose pour 50 balles. Et si vous ne voulez pas soutenir Baxit, d'ailleurs ça ne soutient pas Baxit, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous pouvez toujours payer 60 balles. Voilà. Et je rappelle que la Fête de l'UMA est le festival le moins cher de France. Et c'est une volonté de la rédaction de l'Humanité, pas que de la rédaction, pardon, de l'organisation de la Fête de l'UMA, que d'être accessible pour les personnes les moins fortunées. C'est un vrai enjeu militant d'apporter la culture à tous, le plus largement possible, que les personnes les plus précaires puissent avoir accès à la fête de l'UMA, etc. Vous avez déjà vos invités? Oui. Bah oui, on a Sophie Binet, invitée politique. Pour la fête de l'UMA, est-ce que tu payes la technique? Non, on a un partenariat avec l'UMA. Baxit est partenaire de la fête de l'UMA. Pour venir voir Baxit, il faut faire partie de ceux qui ont fait des dons où c'est ouvert. Ah non, non, c'est complètement ouvert. La fête de l'UMA, c'est un immense festival. Il y a plein de scènes de musique, il y a plein de chapiteaux de bouffe, de politique, de ce que vous voulez. Et il y a une grande halle, un immense chapiteau central, qui est le chapiteau de l'UMA, du journal L'Humanité. Et c'est sous ce chapiteau-là qu'aura lieu Baxit. Mais c'est ouvert aux quatre vents, hein. Vous venez quand vous voulez, etc. C'est les équipes de l'UMA à la Réal? Non, c'est pas les équipes de l'UMA à la Réal, c'est les équipes de Gozu. Les équipes habituelles de Baxit. Niveau son et tremblement de caméra, ce sera pas mieux que l'an dernier, j'en sais rien. Ça, les réunions techniques vont avoir lieu là. C'est les techniciens qui se parlent entre eux et qui checkent ça. Est-ce qu'il y a des tables rondes et des débats? À la fête de l'UMA, il n'y a que ça, des tables rondes et des débats, partout. Tous les stands organisent leur propre programmation avec leurs invités, avec leurs députés, avec leurs militants, avec leurs ce que tu veux, journalistes, artistes, etc. Il y en a plein, 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 plein. Le boss Nico Cardel. Ce sera pas Nico, malheureusement. Ce sera pas le réalisateur habituel de Baxit. Il est pas là. Il est en vacances. Mais je vais. Attendez. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà.
En Seine-Saint-Denis, donc il faut retrouver aussi.
Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble la fête de l'UMA, l'année dernière, on avait fait une déambulation dans les allées de la fête. Avec deux militants. Un ancien qui avait connu plein plein de fêtes de l'UMA depuis qu'il est tout petit, qui du coup avait plein d'anecdotes à nous raconter. Et une jeune militante, une bénévole de la fête de l'UMA qui était avec nous aussi et qui racontait. Là, on était en train de quitter la grande scène, une des grandes scènes de l'UMA. On était en plein après-midi, il n'y avait pas de concert. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Et on commence à rentrer dans les allées de la fête. Et vous voyez, les allées de la fête, c'est ça. Voilà. Il y a des chapiteaux partout, il y a de la bouffe, il y a des tables. Là, on était à côté du truc qui faisait de la musique, parce que je crois que c'est le côté créole ici. Donc voilà, on les avait interviewés et tout. Après, on s'était baladé. Tu vois, il y a une programmation partout. Chaque chapiteau a sa prog. C'est un peu le dawa, mais c'est le bonheur de la fête. Là, je crois que c'était les jeunes communistes, je crois, qu'on interviewait. Vous pouvez regarder cette vidéo-là, qui vous montre l'UMA de l'année dernière. Là, c'est la Fédération de Loire-Atlantique du Parti communiste qui a son grand chapiteau. Il se passe plein de trucs dedans. Et lui, c'est Fabien Gay, le directeur de l'Humanité, le journal, il est également sénateur communiste, Fabien. Et voilà, et on refera une déambulation cette année. Joli chapeau. Arrêtez, je l'ai toujours. Sauf que c'est devenu un vide-poche depuis. Mais voilà, c'est le chapeau Luma. Le chapeau de la fête de Luma, je l'ai toujours. Bon, par contre, voilà, j'ai foutu plein de bordel dedans. Il y a des cartes de visite. J'ai la carte de visite de Dame Dame. Carte de visite de l'Assemblée nationale. Est-ce que je vais retrouver là-dedans la carte de... J'ai une carte Subway. La carte de l'UDI. Non, elle n'est pas là. Mais c'était là ça. Oui mais non. C'est pas le même. Je vais quand même la laisser là. Bref. On en parle de tout ce plastique. Bah justement, je le jette pas, sinon ça finit dans la mer. Je l'entasse. J'ai fait tomber ma gourde YouTube. Les claquettes UMP. Oh! Je rêve d'avoir les claquettes UMP. Si quelqu'un a des claquettes UMP, est-ce que vous pouvez me les envoyer par pitié? Je collectionne les goodies politiques à la con. Je veux des claquettes UMP. J'ai ma gourde faite de l'humain. J'ai demandé à Adèle, elle peut pas, elle en a pas. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les claquettes UMP, c'était sorti en 2006-2007, c'était des claquettes hein, qui étaient aux couleurs du parti, mais surtout la semelle de la claquette, il y avait écrit UMP en négatif, qui était gravé à l'intérieur, ce qui fait que quand tu marchais sur le sable, tu laissais des traces UMP dans le sable. J'ai récupéré un badge Marie Toussaint pour sa campagne européenne. On m'a filé. Ça, c'est quoi déjà? C'est un épouvantail. Non, pas un épouvantail. Un éventail. C'est un éventail du conseil départemental. Non, de l'agglomération Val-de-Garonne. Incapable de vous dire où j'ai chopé ce truc, hein. Probablement là-bas, mais. Il y a quoi comme ville dans le Val-de-Garonne? T'as le décapsuleur de la CGT? Je crois que j'en avais un, mais que Usul me l'a piqué. J'ai un petit ventilateur du marché de Rungis. Le groupe Rungis, là. Enfin, le marché de Rungis. Qui ont sorti ça pour la canicule. J'ai, très important, un tire-bouchon Assemblée nationale. C'est écrit là, Assemblée nationale. Avec rouge et bleu pour droite et gauche. Très très important. Je l'ai acheté sur la boutique, ça m'a coûté un fric fou. J'ai des baguettes du Jap que j'ai mangé ce midi. Vraiment, on s'en branle. Hein. J'ai une tasse publique Sénat. Évidemment. Une boutique officielle à l'Assemblée nationale. Ah oui. L'Assemblée nationale, c'est comme à Disneyland, hein. Quand t'as fini l'attraction, il y a une boutique, hein. Je crois que c'est à peu près tout comme merde que j'ai, mais que j'ai là à portée de main, parce qu'après, si on se tourne vers là-bas, et dans les tiroirs, j'en ai encore plein. Des conneries comme ça. T'imagines les heures d'ASMR que tu pourrais faire avec tout ce merdier? GG les claquettes UMP. Moi je veux les claquettes UMP moi. Si quelqu'un me les retrouve. Ah, c'est les claquettes UMP qui ont gagné le vote. C'était quoi le vote? Merde, je peux pas lire le titre du vote. Pour la fête de l'UMA. Tong UMP sur Vinted, 53,20 €. T'es sérieux? Attends. Non, je suis sur un site qui s'appelle Best of Le Bon Coin. Moi, je veux les tongs de l'UMP. Oui, elles existent. Ah, elles sont là. C'est moche, hein. Mais moi, je veux ça. Moi, je veux absolument ça. En plus, il n'y a que moi qui peut avoir envie d'acheter ça, quoi. La boutique de l'Assemblée nationale est down. Ah merde, on a planté la boutique de l'Assemblée nationale! Ah ouais, ça m'a l'air bien planté là. Ça veut pas s'ouvrir. Ah si, c'est bon. Bienvenue dans la boutique de l'Assemblée nationale. Et ils ont plein de trucs. Mais genre vraiment plein. Et d'ailleurs, la boutique de l'Assemblée nationale, vous pouvez y aller en physique, hein. Elle est là, la boutique, je vais vous montrer. Putain, l'Assemblée, elle est où? On perd l'habitude avec les vacances. Là, vous avez l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est l'Assemblée nationale, là, à droite. Et là, vous avez la boutique. C'est tout ce truc-là. Et des trucs en vitrine et tout. Voilà. La boutique de l'Assemblée nationale. Et l'entrée là-bas, c'est l'entrée que vous avez déjà vue à la télé, je suppose. C'est la place du... C'est la rue de l'université. Ça, c'est l'entrée d'honneur. Et ça, cette petite porte, c'est là où rentrent les députés. Par ici. Et là, la boutique, elle a planté. Là, on est d'accord. Hein, on peut plus cliquer sur rien. Hein. Ouais, vous êtes trop nombreux. On a fait planter la boutique de l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois hein, qu'on fait ça hein, sur ce stream. Et le siège des Républicains. Ouais, le siège des Républicains, il est là. C'est là que Éric Ciotti s'est enfermé. Là ou là, je sais plus quelle porte. C'est Annie Genevard qui a la clé. Il fait un watt le jogger? Mais non. Ah non, il fait un pouce. Il cotin. Bon bah j'arrive pas, ouais on arrive à cliquer sur rien. Ouais le site est planté, bon c'est pas grave. Bref, je veux les tongs UMP. Je veux les tongs UMP. Il me les faut. J'ai une question, le président n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale pour des raisons politiques, mais peut-il techniquement y entrer en tant que visiteur? Non. Non. Président de la République, c'est pas quelqu'un qui se balade sur le trottoir, les mains dans les poches, et qui se balade, hein. Président de la République, il y a quatre bagnoles plus la gendarmerie, des gardes du corps partout. Il peut pas se pointer comme ça. Alors, il peut aller baiser en scooter. Ça, président de la République. Mais d'ailleurs, rappelez-vous, le scandale qui était sorti à ce moment-là, c'est pas le fait que le président de la République est une idylle. Ça, il a le droit. Parfaitement le droit d'avoir une idylle. Ce sera dès le premier, dès le dernier. Par contre, que le président de la République se balade sur un scooter avec un seul garde du corps, ça avait fait scandale. Ça, il y avait des gens qui avaient dit non. Non, 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 je suis désolé, t'es président de la République, t'es chef des armées, t'as le bouton nucléaire, tu te balades pas comme ça dans Paris, en scooter, c'est mort. Il y a une annonce de tong UMP sur Vinted. Oui, je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais elle est encore chère. Encore chère, ça me saoule. Bon, les copains, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de Premier ministre ce soir. Hein. Je pense qu'on peut, voilà, on peut enterrer le truc. Hein. Ça annonce un stream demain tout à fait fameux. Si on a un Premier ministre demain. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Merci Turfern et toutes les personnes qui ont claqué leur Prime et qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à vous. C'est ce qui me permet de vivre. Et ça, c'est cool de vivre. J'aime bien. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous remercie encore une fois d'être venu. Et demain, je lâche mon meilleur stream. Bah, si l'information elle tombe, bah, je stream direct. Et sinon, je stream plus tard dans l'après-midi, comme aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci à vous. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée et à tout bientôt. Salut, ciao, à demain.